Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute l'Europe, la France, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS, et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le libre journal de Serge de Bekech avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 16 janvier 2002 de 18 à 21h, en différé jeudi 17, dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 0085, par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Amis de la Reconquête, bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir madame, bonsoir messieurs.
Bonsoir.
Pour commencer, une annonce, parce qu'après je vais oublier, je me ferai arracher l'œil gauche. Dimanche 10 janvier à 15h, messe tridentine célébrée sur l'emplacement de l'échafaud. Place Louis XV, Louis XVI, Louis XIV, enfin la place que vous voulez, que les républicains appellent la place de la Concorde. À la mémoire du roi très chrétien et sa famille, pour le repos de l'homme du roi et l'avenir de notre pays. Ça se passe à 15h le 20 janvier, dimanche. Vous y serez ?
Non.
Pourquoi non ?
Parce que je ne me sors pas beaucoup.
Et le lundi 21 janvier à 10h, dépôt de gerbe, prière et allocution au même endroit. Tout ça a été accordé en dépit de l'existence du plan Vigipicrate. Que c'est le plan Vigipicrate ?
Oui.
C'est rigolo, tout à l'heure j'étais dans le métro, il y avait des sacs de on sait pas quoi, des cochonneries partout. Je me disais, si j'appelais les pompiers en disant il y a un sac suspect, le métro s'arrête pendant 2 heures.
Eh oui.
J'aurais dû le faire, mais je n'ai pas cédé à mon mauvais fond.
Heureusement.
Deuxième annonce. Le Libre Journal de la France Courtoise, qui est un décadère, donc un journal qui paraît tous les 10 jours, qui est d'un intérêt exceptionnel, d'une qualité rare. J'ai un nouvel abonné en face de moi, d'ailleurs.
C'est vrai. Alors, qu'il est joli. Pas pour votre nouvel abonné, pour le journal.
Pas mal, le nouvel abonné, mais le journal, il est bien aussi. Donc, il est paru. Le premier numéro de 2002 est paru.
Vous ne l'avez même pas apporté.
Mais je ne l'ai pas encore. L'imprimeur ne me l'a pas livré. Cet imprimeur, je vais faire quelque chose comme ça. Alors, je voulais dire, on a donc changé les abonnements. C'est-à-dire qu'on dit changer, mais en réalité, on a augmenté. Parce que, vous savez qu'avec l'euro, on est obligé d'indiquer les prix en euros, qu'on le veuille ou non. Et donc, ça faisait des prix avec, je sais pas combien, 100 euros ou 99,88 ou des trucs comme ça. Donc, on a dit, allez, terminé, on met tout en euros ronds. Alors, j'indique les prix en euros ronds. Donc, un abonnement nouveau, c'est 110 euros. Un abonnement renouvelé, c'est 100 euros. Et le prix du numéro, c'est 5 euros. Et vous verrez, d'ailleurs, c'est écrit, les neuros, N-E-U-R-O-S, peuros, T-U-E-R-O-S, et queuros, K-E-U-R-O-S. C'est le seul mot qui change, dont l'orthographe change, en dehors du S final, selon le nombre, en langue française, enfin en langue européenne. D'ailleurs, à propos de la langue européenne, je voudrais quand même vous signaler quelque chose qui est assez rigolo. C'est un auditeur qui m'a envoyé ça, une auditrice plus exactement. C'est le catalogue Tupperware. Vous connaissez les produits Tupperware.
Très bon produit.
Et ben là, c'est ça. En plus, ils vont nous filer du fric. Certainement, vous pouvez compter là-dessus.
Ils pourraient nous en envoyer quelques-uns.
Alors, le calendrier Tupperware, ils sont meilleurs à faire. J'espère qu'ils sont meilleurs à faire leur gamelle en plastique que les calendriers, parce que ils ont fait un calendrier euro, naturellement, euro européen. Et alors, il y a donc 15, au moins 15 vignettes qui représentent. Enfin, non, il y a 12. D'ailleurs, je dis des bêtises. Il y a 12 mois, 12 vignettes qui représentent chacune le symbole d'un du pays. Alors, par exemple, Paris, c'est la Tour Eiffel.
Hein. Ça chante.
C'est original. Qu'est-ce qu'il y a la Belgique, la France, c'est la Tour Eiffel. La Belgique, c'est la petite rue des Bouchers.
Oh,
ou la rue des
petits
bouchers. Non, c'est ouais, ça. hélas, la Grèce, c'est l'acropole, j'allais dire le Capitole, ça s'arrange pas. Rome, c'est le Colisée. Et alors, la principauté du Luxembourg, à votre avis, qu'est-ce qu'ils ont mis?
Hein?
Le palais du Luxembourg, le palais du Sénat à Paris.
Hein?
Donc ils sont peut-être bons en gamelle, mais ils sont pas terribles en géographie quand même. Hein? Voilà. C'est mitoyen que vous n'aurez pas de gamelle gratuite.
C'est pas étonnant des Américains d'ailleurs.
Ah, c'est américain en plus. Mais de quoi je me mêle alors? Pourquoi ils nous ont... Enfin, tiens, je signale d'ailleurs que le numéro du Libre Journal, je vais y revenir, a en couverture une très très belle illustration. Hein, Victoria?
Mais je ne sais pas, je ne l'ai pas vu.
Très très belle illustration, vous verrez. Et un euro inédit. Voilà, qui est à la gloire, enfin à la gloire. Oui, à la gloire d'un des grands Européens du siècle. Celui qui a fait le plus pour l'Europe. Il n'est pas allé au bout de ce qu'il voulait faire, mais en fait, il était bien parti pour faire l'Europe unie, vraiment de l'Atlantique à la mer de Chine, pratiquement. Mais il n'est pas allé au bout de son projet. D'aucuns s'en félicitent. Bien. Je signale à ceux qui ne le savent pas que notre ami Pierre Joubert sera le dédicataire de cette émission parce que il a quitté ce bas monde deux jours. Oui, le petit Pierre Joubert qu'on avait reçu
triste,
ici.
On le reverra plus.
Ben, c'est triste pour nous, mais pour lui c'est bien parce que lui il a dû monter comme un bouchon et donc voilà. Il est mort dans sa maison de La Rochelle, où il était parti depuis deux ans à peu près. Et alors, il est allé rejoindre Serge Dalens.
Oui.
Tous sur la même piste. Donc je le salue, je salue sa mémoire et je lui dédie cette émission. En revanche, je salue également la mémoire de Michel Poniatowski, qui a également quitté ce beau monde. Parce que Pognin, c'est quelqu'un qui m'intéressait énormément parce qu'il était la preuve vivante qu'on peut être un homme de bien et un politicien calamiteux. Parce que c'était certainement quelqu'un de très bien dans sa vie privée, j'en sais rien, je la vivais pas, mais j'imagine qu'il avait un garçon sérieux, enfin d'un homme sérieux, déterminé, volontaire et tout, et il nous a fait deux cadeaux. Enfin, un cadeau en tout cas dont on peut que le féliciter, c'est le regroupement familial, car c'est lui qui a été l'organisateur de ça. Et puis, il faut quand même pas oublier qu'en 81, c'est lui qui a, comment dirais-je, j'aurais pas comploté parce que c'est pas gentil, mais qui s'est débrouillé pour que Le Pen n'ait pas les 500 signatures. Et il a fait tout le nécessaire pour ça. Et puis après, il s'en est excusé auprès de Giscard parce qu'il s'est aperçu qu'il a fait une connerie, parce que si Giscard n'a pas été réélu, c'est quand même bien parce que Le Pen avait appelé à voter Jeanne d'Arc. Voilà. Donc maintenant, il est débarrassé de toutes ses préoccupations électoralistes. Je pense que d'ailleurs, ça, c'est peut-être le fait que Giscard puisse pas se représenter au présidentiel qui lui a cassé le moral.
Oh.
78 ans, il avait quand même, il était bien. Hein. Souvent, il était dans l'émission de Jean Ferré, c'était intéressant ce qu'il disait.
Oui, c'était intéressant ce qu'il disait.
Il disait exactement le contraire de tout ce qu'il a fait pendant toute sa vie. Oui, Pierre, un mot, Pierre Descartes.
Oui, une petite chose que j'ai recueillie au cours de mon combat de l'Algérie française. Nous étions assez régulièrement informés de ce qui se passait au Conseil des ministres et on a soupçonné... Oui. Poniatowski, oui, d'avoir été le vecteur. Pour moi, il était sympathique uniquement de ce point de vue.
Comment, il avait un surnom, je ne sais plus si c'est le B14 ou je ne sais quoi. Non, il est, mais c'est vrai qu'il n'était pas antipathique du tout. C'était un homme cultivé, c'était un homme de bien et tout. Mais ce que j'arrive pas à comprendre, enfin si, je comprends très bien, parce que c'est ça la démocratie. C'est un homme qui a toujours pensé le contraire de ce qu'il faisait et fait le contraire de ce qu'il pensait. Donc c'est pas... C'est pas un bon plan de carrière, quoi.
On veut
pas.
Paix à son âme.
Oui, oui, paix à son âme, absolument. Voilà, Vini, toi qui es le seul chrétien de cette assemblée, est-ce que tu veux dire un petit mot pour réparer les méchancetés qu'on a dit sur Pogna?
Exact. Alors, je vous propose un pèlerinage en Russie.
Non, pas pour Pogna, quand même, non.
Une excursion en Rhénanie catholique.
Il poursuit son chemin, il s'occupe absolument pas des questions qu'on lui pose, il va tout droit son chemin.
Tout droit.
Ah, Vini, tu sais, la percée de Sedan. Hein. Oui, vas-y, je t'en prie.
Un colloque sur la Sainte Russie et un dîner débat de Radio Silence. Alors, à vos stylos, s'il vous plaît. Donc, alors, un pèlerinage en Russie.
Parle bien dans le micro.
La dernière fois, quand nous étions en Lituanie, avec un grand tour avec des cars bourmaux, en faisant le tour Lituanie, Hongrie, vous voyez, Autriche, alors toute l'Europe, nous avons dit la prochaine fois, nous pousserons plus loin jusqu'à la Russie. Et Bourmaux a dit, c'est impossible, jamais personne ne va en car jusqu'à la Russie. Eh bien, le plan est prêt.
Il y en a d'autres qui ont essayé.
Nous partirons avec Bourmaux le 28 avril pour la Pâque orthodoxe vers la Russie, en prenant le bateau à Flensburg en Allemagne, en parcourant donc toute la mer Baltique et en arrivant, après un jour et demi de magnifiques traversées, j'espère, à Tallinn, la capitale de Estonie, tout en haut, qui est un bijou du Moyen-Âge que apparemment les nazis n'ont pas vu, les communistes non plus, elle est restée comme ça, complètement perdue, et aujourd'hui c'est un bijou de tourisme déjà pour toute la Scandinavie, mais ici très peu connu. Alors là, on va déjà se familiariser un peu avec l'esprit nordique, et après un jour et demi, on part en car, n'est-ce pas, qu'on avait embarqué dans le bateau, jusqu'à Saint-Pétersbourg, qui n'est qu'à 180 km de là. Et là, nous restons 6 jours. Et ça tombera justement sur le Vendredi Saint, le dimanche de Pâques. Attention, de Pâques orthodoxe, c'est pas la même date cette année, c'est 5 semaines plus tard. Chez nous, c'est le 31 mars, chez eux, c'est le 5 mai, je crois. Et on passera donc la nuit pour voir cette grandiose liturgie divine depuis Saint-Chrysostome.
Et je vous conseille de prendre des forces, parce que c'est long. Hein.
Oui, c'est 4 heures minimum. Mais vous l'oubliez, après une demi-heure, vous oubliez la montre, vous regardez plus la montre. Hein. Déjà, tous les corps chauffants autour de vous, ils vous font pas froid au cœur. Hein. Et en plus, il y a 4 chorales, il n'y a pas d'électricité, que des bougies.
Y a, carillon,
c'est écrit, le Christos voskres, c'est le Christ ressuscité, et tout ce peuple qui répond au moins une trentaine de fois. Alors c'est une ambiance inoubliable, vraiment, en tant que fête chrétienne, c'est quelque chose de merveilleux. Bon, le lendemain, nous allons aussi à l'hôpital des enfants brûlés, qui sont centralisés sur Saint-Pétersbourg, que nous connaissons bien déjà maintenant depuis plusieurs fournitures par nous de médicaments. Et chacun de nous, on sera une quarantaine, amène un paquet pour chacun des enfants. Ils sont normalement 35 à 40 enfants. Hein. Et ils nous attendent déjà, on est des grands copains là-bas déjà. Bon, ça fait partie de Pâques. Ensuite, naturellement, nous restons 5 jours à Pétersbourg, avec toutes ces visites, les grandes cathédrales. Nous avons même demandé un rendez-vous chez le patriarche. Je ne sais pas s'il sera à Pétersbourg. Normalement, il est quand même à Moscou, mais il va peut-être nous déléguer son évêque de Pétersbourg. On a préparé une grande icône sur feuille d'or que quelqu'un nous a offert gratuitement pour ce voyage. Donc, après, on va faire une excursion, alors là, à Valamo. Il n'y avait jamais une procession catholique jusque là-haut. Ça, c'est une espèce d'île sur le lac Ladoga, une île de ermite, si vous voulez, mais c'est important comme Lourdes chez nous, comme Saint-Jacques de Compostelle, dans toute la Russie. Et depuis 12 ans, des moines sont de nouveau là-bas. Alors, il se trouve qu'il n'y a pas de bateau à cette époque-là. Il commence que le 1er juin. Donc, on a fait un contrat avec les hélicoptères. Alors, ceux qui ont... C'est une option, quand même. Alors, c'est pas obligatoire pour... ceux qui s'aventurent, moi je vais y aller, hein, ceux qui veulent venir avec moi, l'hélicoptère il prend 15 personnes, donc on s'envole à Valamo et avec nos bannières catholiques et on va dire bonjour à nos frères orthodoxes. En attendant l'Europe chrétienne à bâtir ensemble. Et au retour, alors là, nous parcourons donc tous les pays baltiques, en nous arrêtant longtemps, c'est-à-dire un jour et demi à Kaunas, l'ancienne capitale de Lituanie, où nous avons des amis, où on visitera la ville, on rencontrera d'ailleurs une paroisse, les jeunes de la paroisse, et on s'échangera sur l'église d'aujourd'hui. Et ensuite, à Varsovie, nous rencontrons la Fraternité Saint-Pédis, qui nous explique toute la mission de l'Est, à partir de Varsovie et Lituanie. Et puis, alors, vous voyez, tout ça se fait par cas, dans le cas, pour retourner jusqu'à Paris. Ça, c'est la partie un peu dure. Mais c'est un pèlerinage, n'est-ce pas?
La partie Nard-Paris, ça a toujours été plus dur que Drang-Narostan.
Il y a quand même deux nuit en quart, hein, mais comme c'est des quarts de luxe, n'est-ce pas, c'est presque de trop pour un pèlerinage. Bon, alors, j'ai secoué l'arbre un peu fort, j'ai écrit à tout le monde, on était 60, j'ai dit, mais c'est un pèlerinage dur, vous savez, on en a, j'avais 40 personnes qui sont parties, alors maintenant, on n'est plus que 32, donc il y a encore 10 places libres, hein, pour ceux qui veulent faire un pèlerinage un peu dur, mais quand même très, très important pour la rencontre de l'orthodoxie. Sans eux, nous ne ferons pas l'Europe chrétienne.
Et alors, combien
7500 francs, tout compris. Ça, plus le visa russe. Là, c'est un peu cher, c'est à Paris, c'est un peu compliqué, mais on sait s'y prendre. Bon, alors 7500 francs pour 13 jours, tout compris. Manger, dormir,
vodka aussi.
Prier, n'est-ce pas? Voilà. Et à l'inscription, 1000 francs, etc. Il y a une documentation, si vous nous la demandez. Je donne déjà, je commence à donner l'adresse. Alors, UNEC, boîte postale 114, 95 210 Saint-Gratien. 95 210 Saint-Gratien.
Tout si vous n'avez pas noté, vous prenez le libre journal, elle est dans l'adresse.
Merci. Alors, pour préparer ça, nous faisons un colloque à Paris qui s'appelle « La Sainte Russie » avec Vladimir Volkov et le père Le Carreux. Ça aura lieu le 2-2-2002. Alors, si ça, c'est pas facile. Et en plus, à 2 heures. Si ça, c'est pas facile à retenir, bon. Alors, le 2-2-2002, c'est un samedi, de 14h à 18h, à la salle, comment elle s'appelle encore, Saint-Germain. Mm-hmm. Salle Saint-Germain, vous savez, Wagram, là, 17...
Oui, où il y a la messe, 10... tradie.
Ou à la Fraternité Saint-Pédis, non? 19 Avenue des Ternes, Paris 17e. Donc, salle Saint-Germain, 14h à 18h, avec Volkov qui nous parlera en deux conférences sur, d'une part, la politique, depuis l'histoire jusqu'aux enjeux d'aujourd'hui en Russie. Ça sera très intéressant. Vous savez que Volkov est pro-russe. Donc ça change un peu, n'est-ce pas, avec ce qu'on entend parfois.
C'est incroyable.
Bon, et incroyable.
On en apprend tous les jours.
Et l'abbé Le Carreux, vous le connaissez tous aussi, c'est un grand spécialiste de l'Orient, et il est depuis longtemps un amoureux des icônes. Donc il a le cœur de nous introduire, et on va quand même là-bas rencontrer pas mal d'iconostases et les icônes pour comprendre cette... eux, ils prient en regardant. Mm-hmm. Alors ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas... peut-être difficilement faire à l'ouest. C'est ça ce qu'on veut apprendre avec l'abbé Le Carré et ensuite vivre un peu là-bas. Voilà. Donc ça, c'est le colloque du 2 février. Ensuite, nous avons... 2-2-2002 à 2h. Ensuite, alors, une excursion UNEC en Rhénanie catholique. Alors, à l'entrée, quelqu'un m'a demandé qu'est-ce que c'est l'UNEC. Moi, je ne sais pas répondre en une phrase. En fait... On fait des pèlerinages, on aide les femmes qui veulent avorter, on fait silence,
non, non.
On fait une agence de presse.
Excuse-moi, corrige ce que tu viens de dire, parce que si on aide les femmes qui veulent avorter, non.
Oui, on aide les femmes pour qu'elles avortent pas.
Il faut quand même préciser, parce que autrement tu rentres, tu crées la confusion.
Oui, mais les auditeurs connaissent, on en a parlé.
Oui, mais les auditeurs, il y a toujours des nouveaux.
D'accord. Bon, on fait des transports de médicaments vers l'Est, y compris jusqu'à l'Irak, vers le Liban, Lituanie, Russie, Roumanie. On fait des colons. Tous les 6 mois dans une capitale d'Europe, on fait des livres, on traduit des livres en russe, etc. Et on a des groupes de recherche, tels que Costa pour la Sainte Tunique d'Argenteuil et maintenant Tcheli pour le Saint-Suaire. Donc, vous voyez, c'est beaucoup de choses. C'est pourquoi je propose beaucoup de choses. C'est ça, l'Europe chrétienne. On n'a qu'à la vivre. C'est pas la peine de dire qu'elle n'existe plus. Elle existe. On n'a qu'à y aller. On n'a qu'à prier avec nos chrétiens. On n'a qu'à vivre des trésors incroyables qui se trouvent en notre Europe. Alors, donc, cette excursion en Rhénanie catholique, on l'a fait avec Reinhold Secher. qui est notre Reinhard Secher, qui est notre guide, parce qu'il vient de sortir, il semble, un livre sur Charlemagne. On commence tout de suite avec les traces de Charlemagne à Herzdal, en Belgique, où il est né, et 40 kilomètres plus loin, à Aix-la-Chapelle, à Rennes, dans ma belle langue, n'est-ce pas, où il y a la cathédrale, encore, de Charlemagne, du temps de Charlemagne, 800. Et aussi le musée. Donc partout, les rendez-vous sont pris. Le lendemain, alors là, on visite théoriquement les églises romanes de Cologne. Mais il faut savoir que c'est le dimanche de carnaval. Alors, bon. Non, ça c'est aussi, bon, c'est comme ça, hein. Et on a trouvé les gens pour nous montrer quand même la cathédrale, et puis l'église des apôtres à côté, qui est du pur style roman. Et on dort dans un hôtel 4 étoiles, au bord d'un lac qui s'appelle Maria Lar, le lac de Marie. Et là aussi, il y a un très grand ancien monastère bénédictin que nous visiterons. Et le lendemain, c'est la finale, c'est lundi de carnaval. Alors nous allons dans ma petite ville qui s'appelle Am Rhein, 3000 habitants, et on sera reçu par le prince de carnaval avec lequel j'ai pris contact là il y a 2 mois, et il y a même un stand d'huîtres français sur le marché, sur la place de la ville, tous les lundis de carnaval, c'est une coutume déjà. On voit là-bas d'ailleurs des soldats français du XVIIe siècle que les Allemands ont pieusement gardé, tous ces uniformes.
Ah oui, pas des soldats, les uniformes.
Et ils sont des soldats du prince. Et ils sont, on ne sait pas pourquoi. C'est une tradition. Et donc, on ne sera pas dépaysé, je vous le garantis. Donc, l'après-midi, on rentre. Donc, lundi soir, on revient ici. Donc, je répète, on part le samedi matin, 9 février, jusqu'au lundi soir, 11 février. Le tout coûte 1850 francs. Sauf si on veut une chambre individuelle.
Les soins n'ont compris au retour.
C'est 250 francs en plus, pardon.
N'ont compris les soins au retour.
Ah oui, tout.
Et toujours c'est le vin du Rhin.
Bourmeau, n'est-ce pas? Voilà. Bon, alors, le dernier truc, c'est les dîners débats de Radio Silence. C'est déjà le 5e. Hein. Comme vous savez, c'est pas une concurrence, mais c'est une extrapolation de Radio Courtoisie, si je peux dire. On essaye un peu des techniques moderne, nouvelle, c'est-à-dire l'Internet. C'est une véritable radio Internet. C'est pas une radio normale qu'on émet aussi sur Internet, mais c'est une radio conçue pour Internet, où l'on choisit son programme à n'importe quelle heure, selon son goût, on compose ses émissions comme on veut, en tapant, cliquant dessus, etc. Enfin, c'est un truc passionnant. On vient de faire la première émission déjà télévisée aussi. C'est la même technique, donc il n'y a pas de problème. Il faut une webcam, hein, il faut un câble, et c'est parti. Donc on est là à la pointe un peu de la technique quand même, parce que tout ça va venir en force. Alors ce dîner débat aura lieu le 24 janvier, comme la dernière fois, au restaurant Vartan, vous savez, dans la rue où habite
Madame Mitran. Ah oui.
Vous connaissez, rue de Bièvre, sur le coin boulevard Saint-Germain, voilà. Et c'est donc le restaurant Vartan, mais il faut absolument commander chez nous, c'est-à-dire à La Voix du Silence, qui exploite Radio Silence, 5 rue du Frénois, 75-116 Paris, et la place est 140 francs. C'est des dîners débats formidables. C'est vraiment une famille, on est une quarantaine, on avait déjà plusieurs invités, et je crois que ça devient une très bonne habitude, et on a un petit besoin de ça à Paris, où il y a de très gros dîners débats avec 500 personnes, 800 personnes, et on peut rien dire, ou alors c'est tous les 6 mois et on perd un peu le fil. Non, nous on le fait maintenant tous les mois, donc vous en entendrez encore.
Merci Vinny. Si on arrive à t'échapper, on est vraiment très très fort, hein, entre les dîners débats, les pèlerinages.
J'ai oublié de dire que c'est Una Voce qui est invitée d'honneur cette fois-ci. Donc ça sera aussi un thème intéressant sur le grégorien aujourd'hui.
Merci. Une question pour lui. Pouvez-vous nous donner l'adresse pour les mamans célibataires pour déposer les vêtements d'enfants? Vous avez une adresse,
oui,
là.
Oui, alors, écoutez, là, ça nous intéresse. Alors, il y a plusieurs adresses à Paris. Il y a Laissez-les-vivre, il y a Femmes et enfants d'abord, mais j'ai pas les adresses prêtes. Par contre, nous, on a 7 enfants en attente, là. Pour mars, avril, mai, on aura 7 naissances. C'est-à-dire, on a sauvé 7 bébés sur les 22 qu'on a sauvés. Il y en a 7 qui sont pas encore nés. Et ils naissent tous à partir de mars. Donc là, on a vraiment besoin de layettes. Donc, c'est la même adresse, c'est UNEC, boîte postale 114, où vous nous téléphonez, hein. 114 et puis à Saint-Gratien 95 210. Ou vous nous téléphonez au 01 34 12 02 68 et on s'arrangera. Normal, on a un Jeep pour que les chercher.
Encore une fois le téléphone.
Encore une fois, oui. 01 34 12 02 68.
Merci.
Merci.
Merci, monsieur Vermeling. À bientôt.
À bientôt.
Des questions je vous dire pour, des messages, oui.
Oui, messages, des
questions. Là, à propos de monsieur Poniatowski, il y a quelques années, au micro de Jean Ferré, M. Poniatowski avait déclaré qu'il avait été contre l'idée de regroupement familial des étrangers, mais que c'est Lionel Stoléru qui l'avait imposé à Giscard d'Estaing.
Oui,
et un autre message, attendez, M. Poniatowski a été co-responsable en tant que ministre de l'Intérieur avec Simone Veil, ministre de la Santé, M. Durafour, ministre du Travail, Jacques Chirac, Premier ministre, du décret numéro 76-383 du 29 avril 1976, du regroupement familial des immigrés.
Voilà. Et je voulais ajouter que c'est vrai que c'est Stoléru qui a poussé à ça. Ça prouve deux choses. Ça prouve qu'un Stoléru qui n'était rien dans le gouvernement français pouvait imposer à la France une décision qu'elle ne voulait pas prendre, ce qui est quand même tout à fait intéressant. Pour diverses raisons. Et la deuxième chose que je voudrais indiquer, c'est que quand on est ministre, on a une arme qui est une arme fatale, qui marche qu'une fois, mais elle fait des dégâts, qui s'appelle la démission. Et je pense que si M. Poniatowski avait vraiment été aussi hostile qu'il l'a dit au regroupement familial, il aurait dit, si vous adoptez cette mesure, je ne pourrais pas l'appliquer parce qu'elle est contraire à mes convictions en tant que ministre de l'Intérieur, donc je vous remets, M. le Président de la République, ma démission. Voilà. Le problème était réglé. D'autres choses ?
Une autre. J'affirme haut et fort que l'expression « vigipicrate » est de moi. Signé Georges Lemazier, Presse Club de France.
Bien, ben d'accord, oui. Ça, c'est, moi, je vais avoir d'inconvénients. Je ne connais pas M. Lemazier, mais s'il m'écoute, ça doit être comme ça que j'ai entendu l'expression, puisque c'est lui qui m'écoute.
Pouvez-vous donner l'adresse de l'UNEC ? Que faut-il faire pour envoyer des dons ?
Il vient de le dire, là.
Il vient de le redire. Bon, écoutez l'émission.
Et non, mais c'est parce que le message est arrivé avant qu'il ne le répétât. Le tout, c'est pas le message, hein, c'est autre chose.
Oui.
Bien, alors maintenant, passons à tout à fait autre chose. Avec Pierre Descaves, Monsieur Attab Pacha, qui est... Enfin, on vous présentera. Pierre va vous les présenter, Monsieur Attab Pacha, Monsieur Rimenez et Monsieur Rondeau. C'est celui que je connais le mieux, c'est celui dont je voulais le nom. Ça ne s'arrange pas. J'ai eu l'idée, bon, c'est pas l'idée du siècle, de consacrer une émission, non pas, je rassure ceux qui nous téléphonent toutes les semaines en nous disant, écoutez, fichez-nous la paix avec l'Algérie française, on en a soupé, c'est pas le sujet, encore que je trouve qu'on en parle jamais assez, mais en ce moment on vit en France, sous plan vigipicrate, mot déposé par Monsieur Lemazier, parce que on est sans cesse sous la menace de divers attentats. Et je me suis dit que c'était intéressant quand on a vu l'espèce de psychose extraordinaire qui s'est emparée de New York et des États-Unis à la suite de la destruction des tours du World Trade Center. Je me suis dit que c'était d'abord, personne n'avait rappelé que la France, comme aujourd'hui l'Irlande ou le Pays Basque, la France a vécu pendant des années sous les bombes, on peut dire. C'est-à-dire sous la menace permanente, aussi bien en métropole que dans les départements d'Algérie, d'attentats. Il y a eu des attentats absolument terrifiants en Algérie. Je citerai pour mémoire l'automatique, le casino de la Corniche et tant d'autres.
Les bus,
il y a eu les écoles, voilà, les sorties d'école. Parlez bien dans le micro, s'il vous plaît, monsieur Dapacha.
Oui, je disais...
Oui.
Pardon, je disais enfin surtout celle à la sortie des écoles, dans les bus où on mettait des voilà. bombes, où alors, il y avait des enfants de 3 à 6 ans.
On va parler de tout ça parce que je crois que c'est intéressant de réfléchir à deux questions. La première c'est, comment est-ce qu'on peut vivre, continuer à vivre, comme le fait les Français et les Arabes d'Algérie pendant des années dans cette ambiance. Et puis la deuxième question, qui est annexe, mais qui est quand même très intéressante, c'est comment devient-on un poseur de bombes ou ce qu'on a appelé à l'époque un terroriste et comment, ayant vécu dans cette ambiance de terreur, on peut un jour décider soi-même de se mettre à être un terroriste. Et il y a une question annexe, c'est est-ce que tout ça, est-ce que cette espèce de folie sanglante et furieuse ne justifie pas, et j'emploie le mot à terme, à dessein, ne justifie pas le recours à la torture quand il s'agit de prévenir un attentat ou de s'emparer des armes des terroristes. Voilà ce dont je voudrais parler avec mes invités. Et ces invités, en fait, sont plus ceux de Pierre Descaves que les miens, puisque c'est lui qui les a sélectionnés. Je lui ai demandé de venir parce que il incarne, à mon avis, il n'est pas le seul, mais il incarne le combat de l'Algérie française et de l'Algérie, ce qu'aurait dû être l'Algérie moderne. Et il incarne d'une façon tout à fait particulière, puisque il montre ce qu'un... C'est assez, très important de penser à ça aujourd'hui, ça fait partie des réflexions qu'on peut faire aujourd'hui, en face de une espèce de laxisme, d'abandon, de déréliction, de désespoir qui s'empare des Français devant la situation. Il est l'incarnation d'un homme qui a su dire non. On avait, il y a quelques années, il y avait de la publicité pour une pièce de théâtre, et de la publicité, c'était l'homme qui a dit non. En réalité, c'est, étant donné que c'était De Gaulle, c'était plutôt l'homme qui a dit oui à tout, mais en l'occurrence, il l'avait appelé comme ça. Je trouve que Pierre représente beaucoup mieux l'homme qui a dit non. Il faut se mettre dans la situation, c'est un jeune homme qui a une situation, il est marié, il a 4 enfants, il est expert comptable, il est docteur en sciences économiques, il est licencié en droit, il est diplômé de l'Institut de droit des affaires, diplômé de l'École nouvelle d'organisation économique et sociale. Donc c'est ce qu'on pourrait appeler un cadre bourgeois de l'Algérie française des années 60. Bon, et il est président d'une société d'experts comptables, il est expert comptable près de la Cour d'appel de Paris, il est commissaire aux comptes d'entreprise, donc c'est un homme installé qui peut espérer faire une carrière tranquille, magnifique, etc., qui est bien parti. Et puis d'un seul coup, il se dit, c'est plus possible, moi je ne peux pas faire comme si rien ne se passait. Je ne peux pas laisser mon pays, l'Algérie française, les départements d'Algérie, ma petite patrie, aller à volo. Il faut que je fasse quelque chose contre ça. Et il s'engage dans le combat pour l'Algérie française. Là, il est arrêté. Il est interné à Saint-Maurice-l'Ardoise. Il s'évade, parce que c'est un têtu, en compagnie du capitaine Souettre. Et il va passer 6 années dans la clandestinité, dont 2 années de combat direct pour l'Algérie française, et puis 4 années d'absence, disons. Voilà. Alors, je crois que ça, c'est une expérience de vie. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'après, Pierre Descaves reprend sa vie, en quelque sorte, alors, au moment où il l'avait interrompu, avec une espèce de trou noir, de fossé, de près de 10 ans. Il recommence et il redevient ce qu'il était et ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire un des experts comptables, une des figures de la profession, on peut dire, puisqu'il a des tas de responsabilités professionnelles qui sont liées à ce qu'on appelait des responsabilités consulaires dans le temps, enfin de représentation de la profession, etc. Et donc, quand on a parlé de sa vie en Algérie, de son engagement, j'ai eu l'idée de faire cette émission et je lui ai dit, est-ce que tu peux rassembler quelques amis qui pourrait nous parler de ça. Et ses amis sont là autour de nous, et je crois qu'il a fait une sélection qui est particulièrement représentative et intéressante. Alors Pierre, je te laisse présenter tes invités.
Oui, merci de toutes ces gentillesses, mais les témoins que j'ai appelés à ce micro et non pas à cette barre sont aussi des acteurs historiques. Et non seulement ils ont vécu les événements, mais aussi ils ont eu la réaction de dire non et de s'opposer à tout ce qui se faisait à l'époque et qui était mauvais pour notre patrie. Tout d'abord, il y a Monsieur Joseph Attab Pacha, qui est président de l'association Veritas, et qui est un très bon témoin en sa qualité de maire de la Casbah d'Alger, et ensuite de maire d'Alger. Donc il était le maire de la deuxième ville de France. Ce qui fait qu'il a particulièrement des choses intéressantes à nous dire. Il était également conseiller général d'Alger. Et à ce titre aussi, il va vous en parler, il a de l'expérience. Le deuxième témoin que j'ai amené est Monsieur Michel Ximénez, qui est président du Cercle National des Rapatriés, et qui est aussi un combattant de l'Algérie française, notamment à Bab El Oued, où, comme beaucoup d'entre vous l'ont appris, il y a eu des événements assez graves. C'est un ancien prisonnier politique pour crime de patriotisme. Parce que nous, on a été mis en prison parce qu'on était trop patriotes. Et puis, le troisième intervenant est Jean-Pierre Rondeau, qui a été délégué par l'Association des anciens détenus de l'Algérie française, qui a vécu les événements tragiques d'Oran, que tout le monde, dont on a entendu parler, mais non, dont on n'a pas tiré malheureusement l'expérience qui s'impose, mais là, ce qu'il va dire vous permettra de remettre les pieds sur terre. Il est président de l'Association des anciens du lycée La Mauricière d'Oran, vice-président de l'amicale du 9e régiment de chasseurs parachutistes, et il a été maire adjoint en Seine-Saint-Denis, qui est une nouvelle expérience qu'il a pu vivre.
Il n'a pas changé de population, il a changé de région.
Voilà. C'est le territoire qui a changé. Je voudrais, en début de cette émission... Et avant
accessoirement, Pierre, il faut rappeler que Jean-Pierre Rondeau a publié un des deux livres qui disent la vérité sur la torture. Il y a le livre d'Alain Sanders, Torture, vous avez dit torture, et l'autre de Jean-Pierre Rondeau qui est paru aux éditions du Alpha, qui s'appelle Aspect véritable de la rébellion algérienne, suivi de l'Algérie médicale. Alors ce ne sont pas des livres que vous avez écrits, Jean-Pierre Rondeau, c'est des livres que vous présentez, dont vous assurez la présentation. Et alors, je le dis quand même, ce n'est pas des livres de distraction, ce n'est pas le petit cadeau pour le petit enfant, parce qu'il y a les photos que vous ne verrez jamais nulle part, d'une part, et d'autre part, il y a des textes qui montrent que la guerre d'Algérie a été une guerre raciale déclarée par les musulmans, les arabes musulmans, les maghrébins, les musulmano-maghrébins, je ne sais pas comment on peut dire, par certains maghrébins musulmans aux Français et aux juifs d'Algérie, aux Français, juifs, catholiques et laïcs d'Algérie, ce qui est totalement passé sous silence chaque fois qu'on parle de cette question. Ça, c'est très important.
Je voudrais ajouter quelque chose, s'il vous plaît. Je crois que les musulmans n'ont pas fait la guerre seulement aux juifs et aux catholiques. Ils ont commencé à la faire aux musulmans eux-mêmes, qui étaient français, qui voulaient le demeurer, car au début des événements, en 1954, quand on tuait des fois dans des fermes isolées des Européens, dans la Casbah, on tuait 10 à 15 musulmans parce qu'ils ne voulaient pas payer, qu'ils se disaient français et qu'ils ne voulaient pas suivre le FLN.
Puis-je rajouter juste un mot. Vous avez tout à fait raison, et d'ailleurs il apparaît clairement dans ce livre que le choix délibéré donc du FLN à l'époque, c'est un choix de l'épouvante, il faut faire peur, il faut effrayer, et notamment on voit les mutilations sur les musulmans, c'est-à-dire notamment s'ils fument, s'ils fréquentent
des... ou autre chose. On est déjà rentré dans le débat, je regrette. Parce que dans la présentation que je voulais faire, j'ai entendu tout à l'heure Serge dire avec justesse qu'on en a marre d'entendre parler de l'Algérie française. Mais moi, je n'ai pas l'intention de parler de l'Algérie française. J'ai l'intention, et avec mes amis aujourd'hui, de montrer que ce qui nous est arrivé à nous va leur arriver à eux. C'est ça l'objet de notre réunion. Nous allons parler de la France, de la situation de la France, de ce qui se passe en France et pourquoi les Français de métropole aujourd'hui devraient bien se prendre notre expérience au sérieux. Et d'ailleurs, je donnerai ce qui a été dit par Jacques Soustelle, qui était aussi un métropolitain, qui n'était pas particulièrement un pied noir. Il s'est peut-être intéressé à l'Algérie, mais lui, il était de métropole. Et il dit ceci, il nous a laissé un message prémonitoire. Fallait-il pour nous faire taire à tout prix, diviser mortellement la nation, briser l'armée, traiter en malfaiteurs des hommes d'honneur? Une lourde injustice a été commise. Nous avons conscience de pouvoir nous présenter tête haute devant le tribunal de l'histoire. Et maintenant, ça vous concerne. Si nous avons été vaincus, nous n'avons pas failli. C'est la volonté farouche de la majorité du peuple qui seule peut sauver la nation et offrir un avenir à ses enfants. Voilà ce que vous devez méditer, la phrase qui a été dite par Jacques Soustelle, qui était d'origine socialiste, mais qui était Algérie française uniquement parce que c'était
Il était socialiste comme bien d'autres, comme Lacoste, qui était aussi un des hommes qui a essayé de garder
l'Algérie. Voilà, je crois autour de ça, Serge, que tu vas organiser notre débat.
Le débat est en train de s'organiser tout seul, puisqu'un auditeur téléphone en disant « Aurez-vous le courage de rappeler que le premier... » Alors, je vais vous poser la question, qu'est-ce que vous pensez de ça ?« Aurez-vous le courage de rappeler que le premier attentat à la bombe à Alger a eu lieu le 10 août 1956, organisé par des Européens contre des musulmans, et qu'il a fait une vingtaine de morts. Les coupables étaient parfaitement connus et n'ont jamais été arrêtés. »
Alors moi, je peux dire que c'est faux. Parce que figurez-vous que si je
suis Attab Pacha qui parle.
C'est absolument faux. Les premières bombes ont été mises dans les bus, 54. À la sortie des écoles, à des enfants de 3 à 6 ans, où j'ai eu, moi, l'occasion de voir ces enfants, la tête éclatée, les membres arrachés, et c'est ce qui m'a fait accepter la proposition des renseignements généraux, dont je ne pouvais pas faire partie pour la bonne raison que j'étais commerçant. J'ai accepté leur proposition pour aller dans les réunions du FLN pour savoir où l'on posait les bombes. Alors je peux affirmer que les premières bombes n'ont pas été déposées par des Français, que les premières bombes ont bien été déposées par des membres du FLN et bien souvent des femmes.
Moi, ce monsieur est un farfelu. C'est
monsieur
un menteur. Je regrette que ce monsieur, pour moi, c'est un farfelu, c'est un menteur. Jamais les Français n'ont posé des bombes contre le FLN. Peut-être après, mais pas au début de la guerre d'Algérie.
Bien. Alors, ce point d'histoire étant éclairé, je voudrais revenir au sujet que je souhaite nous voir traiter ce soir, c'est celui de la vie quotidienne dans cette ambiance. Alors, je vais vous poser une question d'abord à vous tous. Je vous demanderai de répondre successivement. Quel est, je vais commencer par M. Attab Pacha, quel est le premier souvenir qui vous reste présent à l'esprit de cette ambiance de terreur qu'a connue Alger, puisque vous étiez à Alger,
oui,
à la fin des années 50.
Eh bien, les premières terreurs on a eu cet attentat de la Toussaint, et tout de suite après...
Ça, c'est dans les gorges de Zelidja,
voilà,
l'autocar avec les...
Où il y a eu les premiers attentats. Et ensuite, c'était dans la Casbah où il y avait des attentats journellement contre les musulmans. Ça a duré pendant 8 mois environ. Et ensuite, j'ai connu, bien entendu... les attentats à la bombe dans les lieux publics, à l'automatique, au casino de la Corniche, dans les réverbères, c'était quelque chose qu'on ne pouvait pas déceler. C'était quelque
chose d'atroce. Votre premier souvenir personnel, première sensation, la première expérience. Est-ce que vous vous souvenez précisément?
Oui, je me souviens. La première expérience que j'ai eue, je vous disais tout à l'heure, c'est quand, avec le président Lacquière, m'a amené à l'hôpital de Mustapha, qui avait eu cet attentat à la bombe dans un bus scolaire, et que je suis arrivé à Mustapha et que j'ai vu tous ces enfants de 5-6 ans, les bras arrachés, les trucs comme ça. Ça a été la première chose horrible que j'ai vu, surtout que ça concernait des enfants.
Et quel a été votre sentiment à cette époque-là? Qu'est-ce que vous avez éprouvé?
La peur,
la colère,
La peur peut-être pas. La colère, la haine. Je dirais la colère et la haine, je m'entends très bien, contre les personnes qui commettaient les attentats, parce que les musulmans eux-mêmes n'étaient pas responsables et n'approuvaient pas.
Ça, on en parlera. Je voudrais qu'on essaye de voir après comment on peut passer, effectivement, du ressentiment, de la colère et de la haine contre des individus à ces mêmes sentiments contre des communautés, parce que c'est quand même ce qui s'est passé. Jean-Pierre Rondeau, et vous, quel est le...
Alors moi, d'abord, je voudrais rappeler que j'étais plus jeune. J'avais 15 ans, enfin 62, et j'en profite pour rappeler que c'est le président Jean-François Colin de la Dimat Sud, donc des détenus de... des détenus de l'Algérie française qui m'a demandé donc de représenter. Il y a des gens beaucoup plus honorables que moi qui auraient pu être à cette place.
Mais alors, je l'ai dit, vous êtes parfaitement voilà. honorable, mais on peut se le préciser. Et d'autre part, mais, c'est intéressant d'avoir le regard d'un garçon de 15 ans.
C'est le premier point. Ceci étant, cette association, comme d'autres m'ont honoré pour ma vie personnelle, en m'admettant en son sein. Et je voudrais d'abord saluer, si vous permettez deux secondes, trois combattants de cette association qui sont récemment décédés, lieutenant de l'homme, Philippe Marbeau, qui est aussi un ancien du 9e, et Andreas Santoni, notre ami Andreas Santoni.
Qui était venu souvent, enfin plusieurs fois à cette émission.
Voilà. Je suis donc d'Oran, et à Oran, les attentats ont été beaucoup moins, au départ, beaucoup moins importants qu'à Alger, ou même pas du tout importants, puisque Oran elle-même n'a pas été une ville très touchée par les premiers attentats. Il y a une bombe à la mairie d'Oran, point. C'est plutôt dans l'environ d'Oran où les attentats ont eu lieu, et c'était pas des attentats à la bombe, c'était plutôt des massacres de fermes. Et si vous permettez, ça me permet de donner quelque chose, c'est que le débat, on parle beaucoup de bombes et on est très impliqué par ce qui vient de se passer au mois de septembre aux États-Unis. Je voudrais faire réfléchir nos auditeurs, si vous avez une seconde, c'est que l'image la plus terrible de cet attentat de New York, c'est ces gens qui se jettent par la fenêtre. On peut pas ne pas, quel que soit ce qu'on pense, on peut pas ne pas être ému et troublé et avoir un sentiment de malaise de voir ces gens qui se suicident pour échapper.
Épouvanté.
Hein.
C'est une des images que j'aurais aimé ne jamais voir dans ma vie.
Donc on parle beaucoup de bombes aujourd'hui, mais je voudrais parler de la mère de famille qui était dans une ferme et qui a vu débouler tout d'un coup une équipe de tueurs, qui est violée devant ses enfants, qui est dont le ventre est ouvert, de la petite fille a la tête écrasée, le petit garçon est planté à la baïonnette contre le mur, le père bien sûr a été assassiné, quelques fois on lui a mis les parties dans la bouche. Je voudrais que les auditeurs de Radio Courtoisie puissent imaginer quelle a été l'épouvante de cette famille par rapport même à ces gens qui se sont jetés par la fenêtre. Alors, mon premier souvenir à moi, c'est un souvenir vague, c'est plus une impression, c'est que, bien entendu, nous vivions à 400 km d'Alger, mais nous étions donc très impliqués par tous ces attentats, et mais nos souvenirs, c'est la peur des mères de famille, hein, j'avais 12-13 ans, donc la peur des mères de famille quand on rentrait un peu plus tard de l'école, quand on entendait un bruit suspect, la mère de famille qui attendait son mari derrière la fenêtre pour voir s'il n'avait pas disparu. Et aujourd'hui encore, à mon âge, quand je suis dans un cinéma, quand quelqu'un se lève au milieu du film et s'en va, j'ai toujours ce sentiment de crainte, parce que c'est ce qui se passait en Algérie et c'est ce qui se passait à Alger, c'est-à-dire que quelqu'un allait au cinéma ou au restaurant, puis se levait et partait en ayant laissé un petit colis sous le fauteuil ou sous la table. Et aujourd'hui encore, donc quand quelqu'un se lève dans un cinéma, moi-même j'ai peur, et s'il est à un rang de moi ou quoi, je me baisse pour voir s'il n'y a pas un paquet. Voilà l'impression.
C'est donc 40 ans plus tard.
Ouais.
Voilà. Donc là, c'est quand même, on sent que la marque est indélébile. Elle va vous, cette angoisse ou ce souvenir de l'angoisse de l'enfant, quand vous étiez un enfant, reste encore chez l'homme adulte et ne disparaîtra jamais.
Voilà.
Pierre.
Oui, pour moi, qui était en métropole, j'avais pas de raison particulière de craindre, mais un événement s'est produit dans le département de Constantine, et à Constantine même d'ailleurs, en juillet 1958, mon père a été assassiné d'une balle dans le dos par un terroriste FLN. Je dois dire que j'étais Algérie française.
Quelle était sa situation?
C'est un ancien commissaire de police qui était à la retraite et qui probablement était très Algérie française, comme tous les anciens de la police. Et donc, à partir de ce jour-là, si tu veux, je n'étais qu'Algérie française, je faisais des discours, j'intervenais auprès de mes compatriotes rapatriés du Maroc et de Tunisie. Mais là, j'ai vraiment décidé de mettre ma vie en jeu. J'ai dit, s'ils ont tué mon père, je me laisserai pas faire et je me battrai jusqu'au bout. Ouais. Et là, je me suis engagé à fond dans toutes les opérations.
Tu es parti en Algérie, en fait?
Non, non. J'ai fait mon travail avec la métropole, avec Pierre Sergent, à l'OAS Métro. Je suis resté là, j'ai organisé ce que j'avais à organiser ici.
Si on résume, je donne la parole Monsieur Ruménez, racontez-nous votre expérience.
Moi, je suis un enfant de Babelouette. Et je me suis toujours un petit peu occupé de politique. Déjà en 56, j'avais été en prison, j'avais été arrêté. J'étais très jeune, j'avais 17 ans. J'avais été arrêté, je crois que c'était pour le Guy Mollet, le tomate bien mûre Guy Mollet, quelque chose comme ça. Je m'étais retrouvé 8 jours au central d'Alger, prisonnier, et pour nous punir, c'est une petite anecdote, pour nous punir, le préfet nous avait envoyé des casse-croûtes à la tomate.
Et ça, bon, ça manquait pas d'humour.
Et puis bon, ensuite en 57, il y a eu aussi Budapest, et ouais, là ça. Où j'ai pris conscience. J'ai pris conscience, et puis j'étais un anticommuniste foncier, un communiste tout court, anticommuniste.
Primaire et viscéral.
Viscéral, c'est ça. Et bon, en 57, encore les bombes, il y avait des bombes à Alger, mais ça touchait pas Babelouette. C'est là qu'on peut quand même dire que quand on vous touche pas tellement. Le quartier à côté, on s'en désintéresse. Et puis, au fur et à mesure, les bombes arrivaient, les grenades dans les bistrots, les gens, les jeunes, les vieux jouaient aux cartes, ils recevaient une grenade sur la gueule, les attentats tous les jours, nous marchions dans la rue, on vous trouvait le voisin assassiné.
Mais alors, votre premier souvenir, qu'est-ce que c'est? Là, c'est une ambiance que vous décrivez, mais votre premier souvenir personnel.
Mon premier souvenir, c'est dans un café de Babelouette où les vieux jouaient aux cartes et une grenade a été lancée. Je ne pouvais plus me souvenir du nom du bistrot, mais ça, c'était à Babelouette même. Donc, une grenade a été lancée. Et moi, je lui étais à côté. J'étais à côté avec mes copains. On jouait, on s'amusait. Et on est arrivé. On a vu ce sang, ce malheur, ces gens qui pleuraient. Vous savez qu'à Babelouette, les gens jouaient au bistrot en bas de chez eux. Les femmes, les mères sont descendues, les enfants sont descendus et ont vu ce massacre. C'était un vrai massacre. Je me suis dit quand même, oh, mon coco, fais attention aussi, toi aussi. Fais attention à tes parents. Fais attention à ta mère. Et puis, j'ai pris conscience.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire faire attention? Parce que voilà.
Faire attention, c'est que M. Rondeau l'a dit. C'est vous marchez. Vous marchez. Vous marchez. Et vous sentez quelqu'un derrière vous. Et vous vous retournez. Et vous le laissez vous dépasser.
Ouais. Alors, ce qu'on voit, c'est que, dans vos expériences, il y a, La colère personnelle, parce que Pacha, qui va d'ailleurs très vite se transformer en un engagement sur le terrain et engagement politique assez rapidement. Il y a la colère de...
Je suis désolé, parce qu'on parlait de crainte, surtout quand on marche dans la rue. Je dois vous dire que moi-même, j'ai pris une balle dans la tête par le FLN qui est rentré dans la quatrième cervicale et qui est sorti d'ailleurs en maxillaire droit. Et qui m'a laissé une paralysie partielle de tout le côté droit. Mais il est vrai qu'après, j'appréhendais quelqu'un qui marchait derrière moi.
Ah, c'est ça. Il y a d'une part la colère, et la colère productive, puisque vous, ça vous engage dans le combat politique. Pierre Descaves, ça le lance dans le combat de la clandestinité. Et puis, il y a un bouleversement intime qui se passe. Alors, c'est le cas de Jean-Pierre Rondeau et de M. Ruménez. Ce bouleversement intime, c'est la conviction que, à partir de ce jour-là, on ne sera plus jamais parfaitement tranquille. Il y aura toujours une espèce d'angoisse qui restera et qui se manifeste encore aujourd'hui. C'est votre cas, M. Ruménez, aussi?
Oui, toujours. Mais quand je vais au cinéma, je vais rarement, mais quand je vais au cinéma avec mes enfants, je suis toujours à la recherche de quelque chose autour de moi. Des fois, je rentre dans un magasin, surtout maintenant, me rappelle l'Algérie, quand vous rentrez dans un magasin, on vous fouille.
Oui, c'est ça.
Et ce matin, nous sommes allés à la préfecture de Nanterre. Et à la préfecture, il faut se déshabiller, enlever ses chaussures. Où on va comme ça, ça devient inquiétant quand même, très inquiétant.
Alors, Justement, je voudrais vous demander maintenant d'essayer de faire une comparaison entre l'atmosphère qui régnait en Algérie à cette époque et l'atmosphère qui règne aujourd'hui. Monsieur Jiménez me donne l'occasion là d'en venir à ce point, parce que c'est vrai que à Paris aujourd'hui, je pense dans toute la France, la psychose de l'attentat est totalement absente. Personne n'y pense en réalité. On ne peut pas dire que personne n'y pense parce qu'il n'y a pas d'attentat, puisqu'il y a eu de très nombreux et très importants attentats à Paris depuis 10 ans. Saint-Michel, l'Étoile, Tolbiac, enfin Maison-Blanche plus exactement. Donc il y a eu des attentats graves, terribles. Mais on a l'impression que c'est oublié immédiatement. Il y a eu d'autres attentats qui ont été moins sanglants, comme l'attentat de Béziers, qui est un attentat, enfin un voyou maghrébin qui tire au lance-roquettes sur une voiture de police, c'est un attentat. Et puis il y a eu l'attentat de Toulouse, la société toulousaine, dont aujourd'hui le procureur de la République récidiviste assure que c'est un accident, alors qu'il a été démontré, je crois, d'une façon définitive à cette radio, notamment par le sismologue qu'avait reçu Pichon et par Loïc Le Ribot que j'avais invité au téléphone et qui est un expert de ces questions-là, qu'il s'agit bel et bien d'un attentat. On en est certain, et ils pourront dire tout ce qu'ils veulent, tout procureur de la République qui sont, on sait très bien qu'ils parlent pour des motifs politiques et qu'ils mentent pour des raisons politiques. Voilà. Donc ce qui est extraordinaire, c'est qu'en dépit de cette expérience, de ces expériences multiples d'attentats sanglants, les Français paraissent totalement étranger à toute angoisse. Et je vous disais tout à l'heure en riant que dans le métro, j'ai vu des sacs posés sans que personne ne s'y intéresse. À Chaussée-d'Antin, il y avait un sac en papier, un gros sac en papier qui était abandonné sur un siège et personne ne s'en occupait. Il aurait pu contenir n'importe quelle grenade, n'importe quelle bombe et liquider tous les gens. Personne n'y pense. Bon. Alors qu'on leur dit toutes les 2 minutes, soyez vigilants, s'il y a un sac abandonné, prévenez, et que les affiches de vœux de la RATP, aujourd'hui, sont des affiches qui vous disent, nous félicitons, c'est extraordinaire d'ailleurs, nous félicitons et nous remercions les voyageurs de la RATP pour l'aide qu'ils nous apportent dans la vigilance et l'application du plan Vigipicrate. Donc, on est dans une espèce de monde virtuel, de monde de rêve, hein, où il ne se passe rien, où on vous dit merci d'être vigilant, alors que personne n'est absolument vigilant. Alors ma question pour en venir à ça, est-ce que c'était déjà comme ça, ou est-ce que c'est nouveau pour vous, cette indifférence, ou cette espèce d'absence? Oui, Jean-Pierre Rando.
Bien, si vous voulez, Serge, ne vous êtes jamais demandé pourquoi les hommes reconstruisaient des villes au bas des volcans? C'est-à-dire que l'homme a une capacité d'oubli assez extraordinaire. Et d'abord, il faut dire qu'Alger, Oran, et je parle sous l'autorité de mes anciens, on continue à vivre. Et il y avait aussi de la joie. Il y avait encore. Il y avait aussi donc les villes ont continué à vivre. Mais il faut des attentats répétés. Et si on compare l'ambiance d'aujourd'hui, il faudrait la comparer avec celle de Paris quand il y a eu quelques attentats qui se sont suivis, et on retrouverait très vite aujourd'hui la même peur. Le problème aujourd'hui, c'est que il n'y a pas eu d'attentat à Paris depuis quelques années, que l'attentat de Toulouse leur paraît être que du domaine de la chimère, et ils sont désinformés complètement par la presse, etc. Donc les Français, comme d'ailleurs beaucoup d'autres peuples, ont tendance à oublier les mauvais moments et à vivre sans se préoccuper de demain. Maintenant, nous sommes peut-être un peu plus conscients de ce qui risque de se passer plus tard.
Vous vouliez dire quelque chose?
Oui, non, je voulais dire justement, parce que quand on parlait, c'est parce qu'en Algérie, nous avions des attentats, je suis bien d'accord, répétés. Et on ne pouvait pas oublier. On oubliait peut-être l'instant d'un moment de joie ou de bonheur, mais on était tout de suite pris après, parce que ça explosait à côté de vous, et puis paf, ça repartait. C'est surtout ça, c'est-à-dire qu'en France, en métropole, il y a très longtemps, ça a été très dispersé. Alors, on ne fait pas attention, et je ne souhaite pas que nous connaissions, enfin, en France, ce que nous avons connu, nous, en Algérie.
Pierre Descaves.
Oui, moi, je ne suis pas tout à fait de l'avis de notre ami. Je dis que ce qui se passe en ce moment
en France métropolitaine et la répétition de ce qui s'est passé en Algérie au début. Je ne pense pas du tout que les Français de métropole vont échapper à un avenir qui va être extrêmement douloureux pour eux. Et je trouve l'explication dans les idées qu'ont exprimées nos ennemis. N'oublions pas que Boumedienne, qui a été président de l'Algérie, a dit « Nous conquérons la France avec le ventre de nos femmes ». Il ne faut pas oublier ce qu'a dit Hussein Moussaoui en Iran. Dans 20 ans, c'est sûr, la France sera une république islamique. Il ne faut pas oublier non plus ce qui a été dit au Caire quand il y a eu les premiers attentats en Algérie. La voix du Caire, la voix des Arabes, a dit « L'Algérie a déclenché l'insurrection de la liberté » contre l'impérialisme tyrannique. C'était pas l'impérialisme des Algériens, c'était l'impérialisme de la France. Et également, chaque Algérien doit élever l'étendard de son pays sur le corps du Français. Nous devons éprouver une haine farouche et la léguer à nos enfants. Et à Radio Damas plus récemment, vous combattrez pour la cause de Dieu. Combattez l'ennemi de l'islam et de l'arabisme, les USA, la France, Israël. Donc, on nous menace carrément et il faut pas dire et laisser dire qu'il ne se passe rien. On étouffe les faits criminels qui se passent tous les jours. Les voitures que l'on brûle, les gens qui sont attaqués dans la rue, beaucoup qui sont blessés ou qui meurent. Mais c'est ça. Or, ça va se développer. L'impunité devient totale. On fait agir des enfants et à partir de ce moment-là, il n'y a plus de répression. Donc nous sommes un peuple en danger. Nous allons devoir affronter exactement les mêmes faits que l'Algérie. Je vous mets en garde.
Nous sommes un peuple en danger et d'autant plus en danger que ceux-là même qui sont censés organiser la protection du pays et assurer sa sécurité et sa défense sont au service de l'ennemi. Et là, on en a une preuve depuis quelque temps qui est une preuve absolument définitive. On nous a bassinés pendant des années avec l'antisémitisme de l'extrême droite. On a eu droit à toutes les déclarations possibles et imaginables, à toutes les accusations, à toutes les provocations, à tous les défilés de voyous, de corrompus qui se baladaient avec des effigies de Le Pen en palais et des choses comme ça. Alors qu'il ne se passait rien. Il ne se passait absolument rien qui justifie ça. Maintenant, où tous les jours, il faut bien dire, il y a un acte contre une synagogue, contre une yeshiva, contre un juif qui passe dans la rue avec sa kippa, on lui met une claque, des choses. C'est vrai que ça se produit. Bon, là, silence absolu. Or, silence absolu, silence médiatique, silence politique, et même démenti, puisque pour la première fois dans l'histoire de la manipulation de l'antiracisme en France, la première fois dans l'histoire de l'imposture antiraciste en France, Vaillant a opposé un démenti chiffré aux protestations des dirigeants de la communauté israélite qui prétendaient qu'il y avait une augmentation de l'antisémitisme en France. C'est-à-dire Vaillant, ministre socialiste, qui pendant des années, ministre du Parti socialiste, qui pendant des années a soutenu la fable dans l'antisémitisme de l'extrême droite, aujourd'hui, pour la première fois, donne les chiffres qui démontrent qu'il n'y a pas d'antisémitisme en France et qui démontrent que s'il existe un antisémitisme en France, c'est un antisémitisme qui est lié à l'affaire, à l'immigration maghrébine et à une prétendue solidarité de l'immigration maghrébine avec le peuple palestinien. Donc là, on est vraiment dans une situation où on a, ça serait le moment vraiment de parler d'un gouvernement de collabo.
Absolument.
Qui collabore avec l'envahisseur et avec les pires voyous de l'invasion.
Comme ils l'ont toujours été.
Alors, oui, bien sûr.
Parce que, pardon, il y a une chose qui se passe. C'est-à-dire que vous avez au gouvernement, on a eu comme Premier ministre, on a eu, enfin, des porteurs de valises. Bien sûr, ils n'ont pas le courage de dire, alors ils se disent, nous avons œuvré pour la paix vis-à-vis de la population métropolitaine. Mais il faut qu'ils aient le courage de dire comment ils ont œuvré pour la paix. En étant des collaborateurs, car ils ramassaient l'argent pour acheter des armes qui fournissaient à l'ennemi, au FLN, pour tuer nos petits soldats français qui venaient combattre pour libérer l'Algérie française.
Mais là, on est dans la même situation, toute proportion gardée. Oui. Je veux dire, la façon dont, par exemple, les institutions en France financent des associations dont on sait qu'elles sont des associations liées à toute la pègre, la façon dont, pratiquement en France, aujourd'hui, d'une façon officielle, il est totalement impossible de créer un service de sécurité ou de créer un service d'ordre dans une entreprise comme une grande surface, une galerie commerçante, un service de sécurité qui ne soit pas racialement sélectionné, parce que c'est ça la vérité, ethniquement sélectionné. Vous n'avez qu'à regarder dans toutes les grandes surfaces les gens qui sont à la porte et qui sont chargés de fouiller les sacs.
J'ai appelé le temps des diligences en Seine-Saint-Denis,
voilà.
Serge, si
voilà.
Vous vous rappelez,
oui,
il y a 3 ans.
Donc, et ça, c'est parfaitement accepté. C'est parfaitement accepté. Alors, un auditeur envoie un message.
Je voulais.
Oui, je vous donne la parole tout de suite, ouais, okay. Mais je voudrais donner la parole à un auditeur qui envoie un message qui semble l'indigner. Alors, c'est toute l'ambiguïté de cette affaire dont on parle. Il dit, Jean-Pierre Chevènement, dans la Croix du 11 janvier, a dit, je me sens plus d'affinité avec un Algérien qu'avec un Finlandais. Mais au fond, je crois que c'est le cas de pratiquement tous les Français, enfin de beaucoup de Français. C'est vrai que l'Algérie a été française pendant 130 ans. Les Algériens d'aujourd'hui encore sont encore totalement imprégnés de culture française. Et quand il y a un intellectuel algérien, il parle en français, il écrit en français.
Et je salue tous mes amis harkis d'ailleurs.
Voilà. Et alors, tandis que les Finlandais, on n'a absolument rien contre les Finlandais, mais genre, c'est vraiment une civilisation exotique. Donc le fait que M. Chevènement dise ça, qui pourrait apparaître comme scandaleux, ça n'a rien de scandaleux. C'est le constat d'un fait culturel. Et c'est un constat qui va d'ailleurs tout à fait en faveur de l'action civilisatrice de la colonisation française. Bon. Mais, entre dire, je me sens plus proche d'un Algérien que d'un Finlandais, et dire, sous prétexte que c'est un Algérien, qui a commis des délits, il ne faut surtout pas dire que c'est un Algérien parce que ça risquerait de provoquer la haine, ça risquerait d'engrener de nouvelles représailles, etc. Il y a une différence. Et il y a une encore plus grande différence entre le fait de dire je me sens plus près d'un Algérien que d'un Finlandais et le fait de dire, d'agir en se sentant plus proche d'un Algérien que d'un Français. Ce que fait le pouvoir en France aujourd'hui. Ils sont plus proches de l'immigration qu'ils ne sont proches des autochtones.
Et personne n'empêche de dire que quand une bombe explose en Corse, qu'elle émane des Corses. Alors pourquoi les Algériens auraient-ils des protections particulières quand ils mettent des bombes et pas les Corses? Moi, je ne vois pas du tout.
Je rebondir, Serge, sur ce que vous avez dit. Excusez-moi, mais vous avez parlé donc notamment des Israélites et je voudrais en parler. J'ai sous les yeux un article de Paris Match. Je suis quelqu'un qui dit depuis des années à mes amis juifs que demain, quand le vote musulman sera plus fort en France que le vote juif, ils seront les premiers à subir les politiciens. C'est Paris Match, c'est un journal de 1961, si vous permettez de lire. Il avait 19 ans, c'était un collégien, petit-fils d'un épicier juif de la rue de Mostaganem. Il était allé renouveler son abonnement d'autobus. Ceux qui l'égorgèrent étaient 4, pour lui 4 passants parmi les autres, dont il avait d'autant moins raison de se méfier qu'à Oran, les Européens, pour la plupart espagnols, et les musulmans souvent se ressemblent. Et en tout cas, vivent mêlés les uns aux autres, plus que partout ailleurs. Soudain, deux de ces quatre se jetèrent sur lui et le ceinturèrent. Le troisième lui releva le menton. Le quatrième, avec un de ses mauvais couteaux en fer qui tiennent par le fil, un douk-douk, mais n'en coupe pas moins comme des rasoirs quand ils viennent d'être affûtés, lui trancha la gorge. Tout cela à un clin d'œil. Quand la foule devant ce jeune garçon gisant dans une mare de sang comprit ce qui s'était passé, les tueurs étaient loin. Un autre ailleurs logea à bout portant 4 balles dans le ventre d'une jeune femme enceinte de 7 mois. C'était une juive. Un autre encore abattit un vieillard de 75 ans. Un juif aussi, sans raison. Tout se passait comme si les tueurs avaient reçu le mot d'ordre de frapper l'imagination des Oranais, à la fois par l'horreur et par la gratuité de leurs crimes. La réaction fut brutale, surtout celle des Israélites. Et là, on parle de ratonnades. On ne parle toujours que des ratonnades de chrétiens qui bêtes, mais qui allaient se venger. Mais on ne parle pas des ratonnades. C'est Paris Match qui l'écrit. Hein. Et je terminerai, mais là, en lisant pendant 7 ans, en parlant de la communauté juive, ils sont restés attentistes et même auraient plutôt eu tendance à flirter avec le FLN. Mais la vieille organisation terroriste des Israéliens, l'Irgun, s'occupait d'eux. Prêts à se défendre aussi bien contre les musulmans que contre les chrétiens, ils ont choisi leur camp, l'OAS. Voilà. Les Juifs aujourd'hui ont un peu oublié ce qu'ils avaient vécu pendant la guerre d'Algérie.
Oui, alors c'est d'autant plus intéressant ce texte que ça va absolument dans le sens de ce que dit Pierre à l'instant. Quand Pierre dit on est dans les prémices de cette situation en France métropolitaine aujourd'hui, on est dans les prémices de cette situation. Et on est dans les prémices au point que même cet exemple-là, il est valable, puisqu'on voit bien aujourd'hui que les représentants de la communauté israélite disent mais enfin, écoutez, c'est pas possible, et ça peut pas durer, il faut faire quelque chose, etc. Alors qu'ils se sont complètement désintéressés de la question pendant des années, et qu'au contraire, ils ont été les plus vaillants et les plus vigoureux supporters de l'immigration sans fin. Et d'un seul coup, on voit paraître des bouquins, je pense au livre de M. Delval, qui vient expliquer que vraiment le danger c'est l'islam et que c'est absolument affreux ce qui se passe, etc. Et puis, où est-ce qu'il va donner ses discours, M. Delval, il va dans des conférences organisées par le Bnei Brit, alors qu'il y a quelques années, il aurait été dénoncé comme un épouvantable raciste. Donc, ça veut dire que... Il y a en ce moment des gens qui sont en train de prendre conscience de la réalité d'une situation. Ce sont ceux qui prennent conscience parce qu'ils ont probablement une sensibilité beaucoup plus affûtée, et on le comprend, on comprend pourquoi. Ils voient venir le danger plus loin que certains, qu'ils n'ont pas connu depuis longtemps, et qui se disent c'est le moment de se mobiliser. Et de se mobiliser, de nous mobiliser nous-mêmes, et de mobiliser les autres communautés. Enfin, on n'est pas dans un pays communautaire, mais de faire comprendre aux Français chrétiens, ou non-juifs en tout cas, que la menace, elle vaut pour eux aussi.
Et d'autant plus, si vous permettez.
Oui, bien sûr.
Je vais vous signaler quelque chose, puisque j'habite Marseille, et je suis à Marseille actuellement. C'est qu'il arrive énormément de jeunes émigrés, avec de bons sentiments au départ. Ils sont là, ils vont demander l'asile territorial. On leur demande de faire une demande et ça va durer un an ou deux ans avant qu'ils aient une réponse. Mais ce qu'il se passe, c'est qu'on leur interdit de travailler. Ces gens-là viennent, ils n'ont pas un sou. Cette jeunesse, comment voulez-vous qu'elle vive? Elle est à la portée de n'importe qui. Pour faire n'importe quoi.
Alors quand on sait que certains mouvements islamistes sont milliardaires et financent des mosquées en France, on peut très bien imaginer, effectivement, et d'ailleurs on sait très bien par les parents des terroristes qui sont abasourdis de découvrir que leur enfant a basculé dans le terrorisme, on apprend qu'ils étaient payés. Qu'ils sont payés.
Mais c'est pas à eux qu'il faut en vouloir. C'est à nos gouvernants. Ce sont eux qui mènent cette politique actuelle. Ne prenez pas des jeunes si vous ne leur donnez pas la possibilité de travailler. Vous savez qu'en France, on ne l'a pas. Nous avons combien de chômage? Alors, n'incitez pas ces jeunes à venir, à rester, sans leur donner de travail. Ils sont à la portée de n'importe quel...
Mais ce qui est pire encore, c'est, vous avez tout à fait raison, mais il y a une chose qui est encore pire que ça, c'est que on leur dit, vous pouvez venir, parce qu'on n'a humainement pas le droit, moralement pas le droit de vous empêcher de venir, puisqu'on vous a martyrisé pendant 130 ans. Donc maintenant, il faut qu'on vous demande pardon, donc venez ici, on va s'excuser. Quand ils arrivent chez nous, du fait de l'indépendance de leur pays, où ils ont été incapables de gérer leur propre pays livré à l'indépendance, ils ont fait de l'Algérie, qui était un jardin, qui était un pays qui est extraordinairement prometteur, une espèce de jungle infernale, où je ne veux pas faire le portrait de l'Algérie, tout le monde le sait, où il y a des centaines d'égorgés, de fusillés, où quand on tombe sur un flic, on espère que c'est pas un flic, parce que c'est peut-être le meilleur moyen de s'en tirer. Enfin, c'est vraiment un pays de cauchemar. Donc, ça, c'est le résultat de la décolonisation. Ils viennent se réfugier en France, ancienne métropole, et là, on leur dit, vous avez tous les droits, hein, mais pas celui de travailler, bien entendu. Et on leur dit, mais si vous n'avez pas le droit de travailler, c'est pas du tout parce qu'il n'y a pas de travail en France, c'est parce que les Français sont racistes. Donc on leur injecte de la haine pure, et effectivement, en quelques mois, le résultat est...
Mais ce que dit Joseph Pacha est très intéressant, parce que, si vous vous rappelez les émissions où j'ai pu participer, c'est que le point principal, c'est un, d'arrêter l'immigration, deux, le droit du sol qui les empêche de toute façon de repartir dès qu'ils ont fait naître un enfant français. Et le problème, j'entends beaucoup d'émissions sur Radio Courtoisie où on parle de l'éducation, de la police, la répression, les prisons, les valeurs, etc. Tout ça, c'est très bien, mais ça ne suffira pas si on a, on n'arrête pas, parce qu'on le trou qu'on a dans le bateau, parce qu'on fera venir d'autres à nouveau qui seront dans les mêmes difficultés dont vous parliez.
Alors, monsieur Rémy, je vous donne la parole 2 minutes, s'il vous plaît, parce qu'après, je voudrais donner la parole aux auditeurs.
Oui, moi, je veux dire que actuellement, c'est rien du tout. Ce que nous voyons, c'est sûr qu'il y a les banlieues, les bagarres, les, des coups de fusil. Maintenant, ça commence les coups de fusil. Bientôt, on vous arrêtera.
Vous avez eu des gars qui ont 5
ans. Les jeunes, entre guillemets. Mais bon, on sait qui c'est les jeunes. Mais quand, vous, quand ces, les Français vont marcher, seront dans la rue, qu'on va leur dire « Hey, toi, petit, crie vive les Arabes », comme ça m'est arrivé à moi. Et si je ne criais pas les Arabes, je ne l'ai pas crié. Moi, je lui ai donné un coup de tournevis. Et je me suis tiré.
Tout le monde n'a pas de tournevis sur lui.
Eh ben, oui, mais c'est comme ça tous les jours. Tous les jours, c'est comme ça. Maintenant, vous allez, on va bientôt mettre dans les transports en commun des grillages, dans les bistrots des grillages, dans les ports, cadenassées, ça va être de plus en plus.
Mais c'est les commissariats en des grillages dans les banlieues.
Mais ça vient,
petit à petit. Les commissariats sont évacués la nuit quand même dans les banlieues, faut pas oublier ça. Alors, les auditeurs ont la parole.
Vous auriez pu rappeler aussi que les nombreux attentats de musulmans en France qui refusent. De nombreux assassinats en France de musulmans qui refusaient de payer l'impôt du FLN. Ça,
monsieur Attapacha en a parlé. En France, en métropole et dans les départements d'Algérie.
Je possède un document publié par le ministère de l'Algérie, cabinet du ministre. Aspect véritable de la rébellion algérienne, paru fin 58. Le document a été pilonné par ordre du cabinet de Gaulle. Il contenait des photos des victimes d'attentats du FLN.
Et c'est cet ouvrage qui est réédité par les éditions du Alpha, avec une présentation de Jean-Pierre Rondeau et un supplément sur l'Algérie médicale.
J'ai un livre, qu'on appelait le livre blanc à l'époque, qui a été monté par Lacoste, j'ai l'original, qui a été distribué d'ailleurs à l'époque à l'Assemblée nationale aux élus.
Mais je crois me souvenir que
c'est quelque chose d'horrible.
Je crois me souvenir, mais c'était celui-là. Francine de Seigne qui l'avait réédité, et je crois que... À l'origine, sauf erreur de ma part, le prix Nobel d'économie français Maurice Allais avait participé à l'élaboration de ce travail. C'est il n'était pas prix Nobel à l'époque.
C'est pas impossible.
Je crois bien.
Je crois que moi c'était
le livre blanc.
Fait par Lacoste. Hein, oui, il avait été envoyé.
Il a été repris sous une autre forme. C'est le même livre en fait.
Voilà. Bien.
La situation insurrectionnelle qui existe actuellement en France est la même que la situation algérienne de l'époque.
C'est exactement ce que dit Pierre Descaves et ses invités.
Si les Français n'ont pas la volonté de renvoyer les musulmans dans leur pays d'origine, nous aurons en France un nouveau Liban. Une auditrice nous dit « Je n'ai aucun témoignage à apporter, seulement ma grande émotion à vos récits et à votre courage. Je crois que nous ne sortirons de tous ces dangers que si les Français se décident enfin à voter pour d'autres personnes que ces gens de gauche ou d'une certaine droite qui depuis des années se moquent de nous et pratiquent une démagogie honteuse. » Je pense qu'il y aura des attentats en France, mais la nouveauté depuis le 11 septembre, c'est qu'ils ne seront plus revendiqués. Et le gouvernement français, avec le courage que l'on lui sait, accusera d'autres personnes que les véritables auteurs. Ça, c'est Toulouse.
L'absence de revendication, je voudrais faire un correctif, parce que je pense que cet auditeur ou cette auditrice fait allusion au fait que l'attentat du World Trade Center n'a pas été revendiqué par Al-Qaïda. Mais il faut savoir, quand même, c'est très important, qu'il n'a pas été revendiqué, il a été, démenti par Ben Laden. Ben Laden a dit « Je n'ai rien à voir avec ça », bien évidemment, a-t-il ajouté. Donc c'est une différence très légère entre ne pas revendiquer et démentir absolument qu'on soit l'auteur de ça. Moi, je continue à penser que cette affaire n'est pas claire du tout, et qu'il fallait peut-être liquider Ben Laden, ça j'en sais rien, et à vrai dire, je m'en fous absolument, le sort de Ben Laden m'est totalement indifférent, mais je veux pas totalement passer pour un imbécile tout le temps quand même. Et même si M. Bush, par moment, fait de bonnes choses, là j'apprends par présent qu'il vient de supprimer les subventions à une société avorteuse, et je trouve ça très bien. Ben, dans l'histoire du World Trade Center, je ne suis pas sûr du tout qu'ils nous disent la vérité. Je vais même dire plus, je suis absolument convaincu du contraire. Je crois qu'on nous ment d'une façon évidente. Et je voudrais, puisque je parle de présent, ajouter qu'il y a beaucoup d'informations dans le présent, mais alors aujourd'hui, il y en a une qui est formidable, c'est qu'il y a un article qui montre, qui explique que le KGB et le FSB, c'est pareil. C'est-à-dire Poutine, Brejnev, même combat en quelque sorte. Mais cet article, malheureusement pas signé, nous apprend que Boris Berezovsky, qui est l'homme qui porte les accusations contre le FSB du président Poutine, il l'appelle l'homme d'affaires russe. Donc ça, c'est la deuxième information de la soirée, c'est que Berezovsky est russe. Et que c'est un homme d'affaires. Ce que je ne savais pas forcément. Je croyais qu'il avait d'autres activités. Et... Voilà.
Bon, à propos de tout.
Vous ne pouvez pas avoir de conversation privée devant le micro parce qu'il y a 12 millions de personnes qui vous entendent.
À propos de Toulouse dont vous parliez tout à l'heure, il y a eu une petite erreur. L'invité de M. Pichon n'était pas un sismologue, mais un professeur de mathématiques, Jean-Marie Arnaudi, qui d'ailleurs nous a convaincus.
Oui, mais il a utilisé les arguments de la sismologie.
Oui. Sans vouloir manquer de respect à quiconque et comprenant que l'on puisse être marqué par le passé, votre émission néanmoins est trop déprimante.
On a subi, on le garde dans le cœur et dans.
Non, mais ça me fait penser.
On pour nous. Hein.
Ça me fait tout. C'est le genre de réflexion qui me fait penser au gars qui engueule. Il va chez le médecin, le médecin lui dit mon vieux, vous avez un cancer. Si vous soignez pas, vous allez crever. Le gars dit je viendrai plus chez vous parce que vous êtes vraiment trop déprimant. J'irai voir un médecin qui va me dire que j'ai une grosse grippe et que ça va passer dans 2 jours. Seulement le problème c'est que c'est pas une grosse grippe.
Alors, j'ai une question un peu particulière. C'est une jeune femme de 32 ans demande ce qu'est le FLN. Elle n'en a jamais entendu parler en classe. Quel ouvrage simple pouvez-vous recommander pour une approche de l'histoire de la guerre d'Algérie, car elle ne comprend pas que les Algériens aient pu tuer leurs congénères. Alors, je lui ai signalé « Mon pays, la France » du Bachaga Boualem.
Écoutez, je ne gagne pas un centime sur ce livre, donc mais je peux en faire de la publicité. Au contraire, il me coûte parce que je diffuse pas mal. Mais je suis prêt, si elle nous refait passer son adresse, à lui adresser les moyens de le récupérer. Ce sont à la fois les photos de ce qu'a fait le FLN, y compris sur les populations musulmanes, mais c'est surtout les tracts et les documents qu'il produisait à l'époque, et on voit tout à fait quelle était son ambition.
Oui, mais en plus, je voudrais dire une chose de bon sens, simplement, c'est que le FLN, c'était un mouvement de libération nationale. Bon, dans toute l'histoire des insurrections, des rébellions, des révolutions, les mouvements de libération nationaux tue et assassine les gens qui sont partisans, qui leur sont opposés. C'est pas le FLN a tué des musulmans parce que ces musulmans voulaient rester français, donc le FLN les a tués parce qu'ils ne voulaient pas rester français.
Pour la terreur. FLN.
Bon, mais je vous signale qu'au Pays Basque, il y a des terroristes de l'ETA qui tuent des Basques parce qu'ils veulent rester espagnols. En Irlande, il y a des gens de l'Irak qui tuent des Irlandais parce qu'ils veulent rester britanniques, enfin anglais. Et en Corse, il y a eu des Corses qui ont tué les Corses parce qu'ils veulent rester français. Donc c'est un grand classique. Si cette jeune personne n'a pas encore compris ça à 30 ans, je ne suis pas certain que la lecture d'un livre, quel qu'il soit, va pouvoir la réveiller. Il s'agirait quand même de...
Enfin, encore, je ferai une différence entre tuer, massacrer et torturer.
Oui, bien sûr, mais c'est une différence de civilisation.
Oui, tout à fait.
Oui, Pierre.
Bon, moi je voudrais, puisqu'on dit que nous avons une émission déprimante, je veux quand même dire que nous ne sommes pas totalement négatifs. Il y a un moyen d'en sortir, bien sûr, mais ce moyen est à la disposition de chacun des Français. Quand je vois que 47% des Français ne vont pas voter, mais ils sont coupables, ils sont responsables de ce qui nous arrive. Quand je vois que des gens qui nous dirigent depuis 1945, qui leur ont raconté des histoires à chaque élection, et qu'on les renvoie à nos dirigeants alors qu'ils ont conduit le pays à la catastrophe, nous sommes responsables. Nous devons réagir, nous devons nous reprendre en main. Alors il y a une possibilité. Toutes les élections tournent autour d'une élection phare, c'est l'élection présidentielle. Dans cette élection, il n'est pas question de témoigner. On ne va pas à une élection présidentielle pour témoigner, on va pour gagner, on va pour changer les choses, car c'est à partir de la présidence de la République que les choses peuvent changer. Alors moi je dis, nous sommes un peuple batailleur, nous sommes nés de ces tribus gauloises qui passaient leur temps à se battre. Eh bien arrêtons. Arrêtons pour une fois la bataille entre nous, entre nationaux, entre patriotes. Arrêtons-la. Nous savons qu'il y a un candidat qui est en mesure peut-être de l'emporter. Il est à 10% des intentions de vote, c'est Jean-Marie Le Pen. En réalité, il a sans doute beaucoup plus. Alors que les candidats nationaux qui n'ont aucune chance disent qu'il faut voter pour Le Pen maintenant, parce que c'est la seule fois, après on ne pourra plus. Je vous le dis, nous serons morts, nous allons crever. Nous sommes actuellement à demi-mort, la tête enfoncée sous l'eau. Alors je demande aux Français, arrêtons les combats de tribus gauloises. Battons-nous tous pour le seul patriote pour le moment qui est en mesure de gagner. Dans les autres élections, chacun pourra faire ce qu'il veut. Il y a de la place pour tout le monde. Mais aujourd'hui, c'est criminel pour un patriote, pour un national français, de ne pas comprendre ce message.
J'ai encore...
Oui.
Deux, trois messages. À Champigny-sur-Marne, on installe un grand square nommé Square de la Libération 1962. Je vis et travaille en Seine-Saint-Denis. Je ressens tous les jours la haine et le mépris dans la rue parce que j'ai une tête d'abruti, de con, excusez-moi, de bof franchouillard. Toutes les voitures qui circulent ont un chapelet musulman au rétroviseur. Je vois maintenant depuis un an ou deux des jeunes filles entièrement voilées, tout en noir. Je me sens tout seul, agressé dans ma maison en permanence. Et tous les soirs, la télévision m'explique que je suis un raciste, un fidèle auditeur.
Oui, ça revient toujours sur cet éternel problème. Moi, je veux bien que la France soit raciste, mais alors ça prouve que les immigrés sont des imbéciles, parce que venir comme ça dans un pays où on sait, parce qu'ils savent, bien sûr, tous les Africains, tous les Maghrébins, de la Tunisie au Maroc, savent absolument que la France est raciste. On le dit, toutes les radios le disent, toutes les télévisions le disent, toutes les émissions, les films, les journaux et tout ça, ça circule. Les Algériens voient la télévision française, ils voient Antenne 2, ils voient, bon, donc ils savent qu'on est raciste. Mais pourquoi ils viennent chez nous? C'est pas raisonnable. C'est vraiment terrible. Si on était si raciste que ça, ça se passerait peut-être moins bien, je crois.
Vous savez que j'assiste ici à cette réunion en tant que président de Veritas. Je tiens à préciser que de cette façon, je suis complètement apolitique. Que si je suis là aujourd'hui, c'est bien pour le débat sur l'Algérie et surtout, pour ce qui se passe actuellement, pour la date du 19 mars. Ce que les métropolitains ne savent pas, c'est que du 19 mars 1962 au 5 juillet 1962, il y a eu 7 fois plus de morts que pendant les 7 ans d'événements en Algérie. Car je refuse ce mot de guerre, pour nous c'était des événements. Et ce qui est encore malheureux, c'est que les gens ne peuvent pas comprendre. Dans les écoles, on ne les éduque pas sur la forfaiture de Charles de Gaulle, sur le viol de la Constitution, sur les crimes qu'il a sur la conscience et sur ses mains. Ça, en France, on ne le dit pas. Et c'est vraiment regrettable.
Merci, M. Attapache. Alors,
je suis obligé de préciser la même chose. En dehors des amitiés que l'on peut avoir.
C'est ce que je vais dire, Jean-Pierre. Pierre Descaves est un politique.
C'est l'homme politique de la bande.
Pierre Descaves est un homme politique. Voilà. Il est engagé dans un combat militant. Voilà. Il a donné son opinion. M. Attapache a donné son opinion, a donné son avis. Pierre Rondeau a donné son avis, on l'a entendu. C'est pas un meeting électoral, c'est chacun donne sa position. Pierre pense que la solution qu'il a soulignée est de nature à sauver le pays. Monsieur Attap peut penser différemment, Monsieur Jiménez aussi, Monsieur Rondeau, c'est pas le sujet. Chacun propose sa solution. Je vous remercie d'être venus tous les quatre. Cette émission est terminée. Nous sommes tenus par la pendule. À bientôt.
Merci.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national à Paris sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le Libre Journal de Serge de Bekech avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 16 janvier 2002 de 18h à 21h, en différé jeudi 17 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce Libre Journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85 ou par télécopieur au 01 46 51 21 82. Volontaires et officiers blancs, il est votre agonie cruelle, la honte de l'Occident, il est votre agonie cruelle.
Bien, ben on va se détendre un petit peu, puisqu'on reçoit pour cette deuxième partie d'émission Guy Lehideux, qui lui reçoit Claude Moliterni. Alors Guy Lehideux, c'est le spécialiste de la bande dessinée pour cette émission, et Claude Moliterni, c'est le pape de la bande dessinée, il n'y a pas d'autre mot, le pape. Puis ensuite, on donnera la parole à Cécilia, qui est la papesse de la fleur, et qui recevez-vous ?
Michel Brose, professeur de mathématiques, aquarelliste et poète.
Ah bon, je préfère la deuxième partie, parce que non, la première, je me disais, qu'est-ce qu'elle nous fait ?
Non, justement, c'est bien.
Et puis, je recevrai, alors décidément, c'est une émission atypique, parce que je recevrai Agnès Figueras-Lenatier, pour un livre sur le tennis. Alors, le tennis et moi, je peux vous dire qu'on n'est pas souvent passé par la même porte, mais je trouve ça amusant, parce que c'est une façon amusante de traiter du tennis, puisqu'elle a interrogé des tas de gens qui n'ont rien à voir avec le tennis sur le tennis. Et ça permet de voir, de percer certains aspects de la personnalité de ces gens-là. C'est pas mal fait. Alors, étant donné que Claude Moliterni est un homme qui travaille, contrairement à certains, on va lui donner la parole en premier. Mais avant, je vais répondre à quelques questions que Victoria veut absolument me poser.
C'était ce qu'on avait dit tout à l'heure, là, on n'a pas terminé. La semaine dernière, je suis allée à Roissy, partout il y avait des panneaux indiquant que Vigipirate veillait sur nous. Je me suis garée en deuxième file, trois quarts d'heure, je n'ai vu aucune patrouille, alors que c'est interdit à cause de Vigipirate.
Et sans vente en plus.
Et, alors, ce qu'on disait tout à l'heure, que tout allait, bon, n'était pas pour le mieux. Pour parfaire le tout, M. Janson indiquera demain soir sur France Inter à 14h05, pendant 25 minutes, comment organiser des réseaux.
Des réseaux Janson.
Il a le micro. Bon,
je ne suis pas trop inquiet.
Peut-on faire confiance à Ben Laden? Il faut Serge de Bekech. Car si Ben Laden dit « Je suis le bon Dieu », est-ce que Serge de Bekech va le croire ?
Non, mais ça n'a rien à voir. Le problème, il est extrêmement simple. En général, quand des gens commettent des attentats, ils les revendiquent, puisque c'est une façon de se faire connaître et de s'exprimer. Bon, il arrive qu'ils ne revendiquent pas. Mais quand ils disent « C'est pas moi », on a quand même le droit de se poser la question. Et puis, encore une fois, si Ben Laden me dit « Je suis le bon Dieu », je dirais « Écoutez, allez voir un bon psychiatre, ça pourra peut-être s'arranger ». Mais c'est hors sujet. Je ne prends pas la défense de Ben Laden. Comme il y a un auditeur qui dit « Comment avez-vous pu... »
Dites-la,
c'est celle-là.
Puisque vous semblez avoir davantage d'affinité avec les Algériens qu'avec les Finlandais, vous allez être servi que votre radio, pour acheter son droit d'exister, puisse affirmer de telles énormités me déçoit profondément.
Alors d'abord, c'est pas la radio, c'est moi. La radio, c'est un outil. Il y a le bonhomme qui parle, c'est moi. Donc moi, je dis quelque chose, je n'engage que moi, j'engage pas la radio, je l'ai déjà dit 100 fois. Deuxièmement, je persiste à dire, même si ça vous plaît pas, que intellectuellement, par culture, je suis plus proche d'un Algérien que d'un Finlandais, c'est évident. J'ai aucun point commun avec un Finlandais, on n'a pas la même histoire, on parle pas la même langue, on a deux choses en commun, et encore, même pas, plus, j'allais dire plus qu'avec un Algérien, non, parce que si vous prenez des Algériens, comment dirais-je, kabyles, ils sont blonds, blancs et aux yeux bleus. Donc je me sens plus proche, racialement, ethniquement, philosophiquement, culturellement, d'un Algérien que d'un Finlandais. Ça veut pas dire que j'aime pas les Finlandais, mais là, c'est la vérité, c'est tout, ça plaît pas. C'est exactement le même prix. Hein.
Je peux faire des petites annonces là qu'on avait.
Alors, monsieur Gonneau, si vous voulez venir vous asseoir sur la chaise qui est libre, ça, qui est libérée par Agnès, ou à côté, voilà, c'est très bien. Alors, docteur, vous avez amené, je dirais pas impromptu, mais au dernier moment, monsieur Grenouillot, pour une raison que je vais vous demander d'expliquer.
Voilà. Alors, si monsieur Grenouillot est là, c'est que, comment dire, la défense pour la vie lui doit beaucoup. C'est que, il a été en première ligne, et dès le début, avec Maître de Libre, qui est mort il y a peu, un homme très... Le 7 janvier, un homme très simple, très... enfin, qui a pris la chose dès le début avec Jérôme Lejeune. Ils ont fondé, à eux trois, c'est M. Grenouillot qui le dira mieux que moi, ils ont fondé Laissez les vivre, qui a tellement d'importance dans cette défense. Et alors, M. Grenouillot est maître, enfin, pardon, est magistrat, il était juge d'enfants. Et actuellement, il est secrétaire d'un mouvement qui s'appelle Comité pour sauver l'enfant à naître, le CSEN. Alors, il édite un petit bulletin. Et c'est un homme qui n'a jamais cessé de défendre la vie, bec et ongle. Et alors, il a plusieurs choses à dire, parce qu'il arrive à l'instant
de l'Assemblée nationale.
De l'Assemblée nationale.
Une question qui n'a rien à voir avec ça, mais j'apprends que vous étiez juge pour enfants. Vous avez connu Yves de Verdillac?
Ah, très bien, oui, oui. Qui a écrit beaucoup de livres pour enfants qui étaient je fais rectifier un petit peu ce que mon ami le docteur Dor vient de dire. Je me suis bien sûr beaucoup intéressé aux enfants, mais je n'ai jamais exercé la fonction précise de juge des enfants. Hein. J'étais au parquet, mais c'est pas le problème, hein, c'est une histoire ancienne. Je me permets de vous faire un petit cadeau, monsieur de Becquet.
Merci beaucoup.
Voilà ce que ça donne sur les lettres.
Ah oui, alors c'est une planche de timbre.
Oui, merci. C'est des timbres qui représentent, vous savez que la loi récente a élargi à 12 semaines la possibilité de tuer le bébé par avortement.
Qui représente donc un infance conceptus de 12 semaines.
C'est des très beaux timbres qu'on peut mettre sur les lettres.
Hymne à la vie.
Évidemment, il faut...
Alors si on veut en commander, on écrit pour avoir une planche de 12
timbres. Vous avez là, voilà un petit bulletin que nous publions, et vous avez là l'adresse auquel...
C'est
la lettre du CSEN. C'est la lettre du CSEN, c'est le numéro 9 qui traite de questions d'actualité, hein, de la bioéthique, de la loi qu'on est en train de discuter actuellement jusqu'à vendredi à l'Assemblée nationale, et aussi de l'arrêt Pérusse. Quelle faute a commise, si elle en a commis, je pense, la Cour de cassation.
Et alors, on va donner l'adresse pour cette arme qui sont effectivement un bon outil de propagande, employons
le mot. Vous avez l'adresse, là.
Donc l'adresse, pour demander. Se les procurer, c'est l'Association départementale de la médaille de la famille française des Hauts-de-Seine.
Oui.
Pour tout envoi, joindre une enveloppe à votre adresse timbrée à 46 euros.
Oui. Ça fait 2 francs.
5 planches.
2 francs, francs, les 12 timbres autocollants.
Voilà. 69 euros pour 10 planches. 0,69.
Oui, c'est des centimes. C'est
0,69 euros pour 10 planches, paiement par chèque à l'ordre de l'association.
Oui, vous voyez ce que ça donne sur une lettre.
Et ça permet de...
Ah oui, ça fait connaître la réalité.
Surtimbrer les lettres.
Ça fait connaître la réalité, oui.
Alors donc, le docteur Dor, M. Grenouillot, nous a expliqué que vous veniez à l'instant...
Oui, je quitte l'Assemblée nationale. Alors, j'ai écouté avec beaucoup de plaisir et d'attention la dame qui peint des fleurs. Je ne sais pas combien elle met de fleurs dans son bouquet, mais moi je peux vous dire que quand j'ai quitté l'Assemblée nationale tout à l'heure, la discussion générale sur le projet de loi du gouvernement, le projet de loi dont j'ai le texte là, projet de loi relatif à la bioéthique, la discussion générale se terminait. Et il y avait du côté de l'opposition actuelle, j'ai bien compté, il y avait 4 personnes en séance, dont Christine Boutin, et de l'autre côté majorité, il y en avait une dizaine ou une douzaine. Bon, hier, il y en avait un peu plus, mais ça n'a jamais dépassé environ 10, 12, 15 de chaque côté. Alors ça, le docteur Dor trouve c'est effrayant, mais peut-être que, comme le cœur du sujet, hein, il faut dire, le cœur du sujet, c'est qu'est-ce qu'on va faire des embryons surnuméraires, des embryons congelés. Alors le projet de loi dit qu'on va permettre, avec certaines garanties, entre guillemets, certains encadrements, qu'on va permettre l'expérimentation sur ces embryons. Ça, c'est le cœur, c'est l'essentiel, c'est l'article 19. Et je pense que, si les députés quand même ont un peu de sens des responsabilités, je pense qu'au moment où on va discuter l'article 19, il y a 28 articles dans ce projet de loi. Je pense que là, ils sont un peu plus nombreux. Et au moment du vote aussi, j'espère.
Monsieur Gonneux, je voudrais qu'on en revienne à l'origine de cette affaire, que les choses soient bien claires. Je sais qu'on en a beaucoup parlé, mais...
C'est l'arrêt Perruche.
C'est que l'arrêt Perruche?
Alors, l'arrêt Perruche est un arrêt qui remontait...
De la Cour de cassation.
À 2 ans, qui a été suivi d'autres arrêts qui... La Cour de cassation n'a pas varié dans sa jurisprudence depuis l'arrêt Perruche. C'est un arrêt qui dit que une personne, un enfant qui est né handicapé, peut demander réparation de son préjudice, de l'intégralité de son préjudice, lequel consiste à ne pas avoir été avorté parce que sa mère n'a pas eu les éléments d'information nécessaires pour le faire.
Et,
ça a scandalisé l'opinion.
Il faut ajouter que il s'agit donc d'une faute il s'agit de créer une faute professionnelle qui est la non-incitation à l'avortement en quelque sorte.
Ça revient à ça.
Ça revient à ça. Hein, qui consiste pour le médecin à dire, madame, votre enfant risque de naître avec une fente labiale. Il faudrait mieux ne pas le faire venir au monde parce que le bec de lièvre, c'est assez mal vu.
Le médecin ou le laboratoire n'a pas donné à la mère une information qui aurait permis de...
Si le médecin ne le dit pas, que l'enfant vient au monde, il a le droit de poursuivre. Et alors, il faut ajouter quand même un élément qui est tout à fait exceptionnel dans la loi française. C'est que... C'est une prescription toute incroyable, parce que c'est une prescription de 30 ans, plus les 18 ans nécessaires à l'arrivée de l'enfant à la majorité. Autrement dit, un enfant né handicapé a jusqu'à son 18e anniversaire pour porter plainte contre le médecin qui l'a mis au monde. Enfin, il peut attendre le 18e anniversaire, date à laquelle il est majeur, et donc à partir de ce moment-là commence à courir la prescription qui est de 30 ans.
Voilà. Alors l'opinion. Alors ce qu'il faut savoir, et c'est bien pour ça que je vous remercie de m'avoir invité. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'opinion est trompée. L'opinion a été bernée parce que la plupart des gens, j'en suis persuadé, croient que la proposition de loi de Monsieur Jean-François Mattei, qui a été adoptée et amendé par le gouvernement, qui a été adopté, si je ne me trompe, tout récemment, le 10 janvier, qui va venir dans quelques jours devant le Sénat, et qui sera terminé avant le 22 février, puisque c'est la fin de la session. Donc, avant le 22 février, on aura une loi, entre guillemets, anti-Perruche, et probablement une loi faussement anti-Perruche. L'opinion a été trompée, parce que, il y a dans la proposition de loi de Monsieur Mattei un article premier qui est très bon, qui dit, je le lis tout de même, que nul, on a ajouté, fut-il handicapé, ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance. Très bien. Mais le gouvernement a fait ajouter un alinéa 3 qui dit que les représentants légaux de l'enfant né handicapé peuvent demander la réparation de l'intégralité de son préjudice, c'est-à-dire toutes les dépenses d'entretien de cet enfant, sa vie durant, même après que les parents aient disparu. Donc ça revient, pratiquement, il y a la charge symbolique est moins forte, mais pratiquement, ça revient à permettre, par l'intermédiaire des parents, d'obtenir ce que l'enfant, d'ailleurs représenté par ses parents, ne pourrait plus obtenir.
Alors, il y a une autre dimension, probablement, c'est que ce sont les parents, c'est-à-dire ce sont les responsables légaux de l'enfant.
Les responsables légaux de l'enfant.
Quand il s'agira d'un enfant handicapé, ça veut dire un handicapé mental, par exemple, on dira, et que les parents sont disparus, l'handicapé sera pris en charge par la collectivité.
Mais c'est ça qu'il faut faire, et donc, c'est ça l'important.
Voilà, mais ça sera le cas.
Bon. C'est ça l'important.
Ce qui se passera, il doit être pris en charge par la collectivité, il ne doit pas être pris en charge par les assurances voilà. des médecins qui ne sont pas responsables du handicap.
Mais ce qui va se passer à ce moment-là, c'est ce qui se passe aujourd'hui quand la sécurité sociale attaque les héritiers d'une personne pour récupérer.
Ah oui, alors ça, c'est plus possible. Ça, c'est un des aspects positifs de la loi qui vient d'être votée. Ça, ce sera plus possible.
C'est-à-dire
C'est-à-dire que la sécurité sociale ne pourra pas récupérer les sommes qu'elle a versées pour l'entretien de l'enfant, elle ne pourra pas les récupérer sur l'indemnité que l'assureur sera condamné à verser à la famille. Voilà, à la famille de l'handicapé. Ça, c'est quand même un point positif. Mais en gros, si
ça,
vous voulez...
Ça, c'était indiqué en toute la
loi. Oui. Mais en gros, si vous voulez, les assureurs devront payer à peu près les mêmes sommes, et les médecins devront payer, les laboratoires, à peu près les mêmes primes, parce que il est mis, à l'alinéa 3 de cet article 1er, il est mis à la charge des responsables, entre guillemets, de la non-révélation de l'handicap de l'enfant avant sa naissance, il est mis à leur charge l'intégralité de tous les coûts que va entraîner l'handicap de l'enfant durant toute la vie de l'enfant. Alors c'est pratiquement la même chose. Vous voyez, dans un cas, l'enfant handicapé, en réalité... Même dans l'arrêt Perruche, Nicolas Perruche, bon, c'est lui qui demandait, mais en fait, il était représenté par ses parents. Et maintenant, on dit, le Nicolas Perruche de demain, il ne pourra pas demander, représenté par ses parents, il ne pourra pas demander lui-même, mais ses parents pourront demander pour lui exactement ce que lui aurait demandé. Oui, c'est une hypocrisie. Disons que c'est un tour de prestidigitation. Oui. Voilà. Alors, et l'opinion a été bernée, a été trompée. Et c'est pourquoi il y a des gens qui ont compris cela et qui... disons, au-delà de l'arrêt Perruche, d'une façon plus générale, veulent dénoncer l'eugénisme ambiant. Cet eugénisme qui fait que dès qu'un enfant, dès que l'échographie, par exemple, révèle, l'amniocentèse révèle qu'un enfant est trisomique, eh ben, l'enfant est systématiquement avorté.
Mais alors, il y a une dimension...
Alors, il faut une manifestation à Tours samedi prochain. Et c'est ça que je voudrais signaler.
Alors, je voudrais qu'on revienne quand même sur la philosophie de cette législation. Parce que,
c'est l'eugénisme qui est derrière.
J'ai été élevé dans le souvenir, le rabâchage, oui. Je pourrais dire, du caractère épouvantable de l'eugénisme nazi. On nous disait, vous rendez compte, les nazis c'était des monstres, ils tuaient les handicapés.
Ah oui, vous avez raison.
Ils tuaient les handicapés, ils tuaient les malades mentaux, c'était des monstres.
Vous avez raison, mais c'est pas eux qui ont commencé. Ils n'ont fait que prendre la suite.
Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est des socialistes, une fois de plus. D'ailleurs, avant, c'était des nationaux socialistes. Maintenant, c'est des socialistes qui sont antinationaux.
Ils sont pas tout seuls, mais ils sont...
Qui font la même chose, exactement.
Oui, d'une façon...
les handicapés.
D'une façon qui est plus... J'allais dire plus intelligente. D'une façon qui est plus douce, c'est-à-dire c'est une incitation, une recommandation, et c'est pas une obligation. Mais en fait, une incitation devient une obligation.
Moi, je crois... Alors là, je pense que ça va être une obligation. Ah, ça c'est une affaire de délai.
Ça risque.
Parce qu'il est évident, ce que vous venez de dire à propos du remboursement des frais engagés est tout à fait capital, parce que si la Sécurité sociale avait eu la possibilité de se retourner contre les responsables, supposés, contre les médecins, pour se faire rembourser. Là, on avait encore une chance de se tirer de cette situation. Mais maintenant, qu'est-ce qui va se passer? La Sécurité sociale va dire, je suis certain que ça va se passer, je l'ai déjà dit à ce micro, je prends les paris, ça sera pas long avant d'être décidé. La Sécurité sociale dira, enfin la loi dira, si vous avez été prévenu que votre enfant est un enfant à risque de handicap, vous avez parfaitement le droit de décider d'avoir cet enfant. On vous a dit, il y a un risque que cet enfant soit trisomique. Vous avez le droit de dire, mais moi, au nom de mes convictions religieuses et philosophiques, je décide que cet enfant, je le veux. Mais vous avez le droit de le faire. Seulement, la société ne prendra pas en charge.
Oui, c'est un risque.
Et par conséquent, c'est à vous d'assumer les frais.
Voilà.
Voilà.
C'est pourquoi il y a une manifestation à Tours samedi prochain, je précise, à 15h, place Jean Jaurès, en plein centre de la ville, pour dénoncer l'eugénisme ambiant, l'eugénisme sous-jacent, non seulement à l'arrêt Perruche, mais au texte qui vient d'être voté, qui va venir devant le Sénat dans quelques jours, et revenir en dernière lecture avant le 22 janvier, devant l'Assemblée nationale. Alors, il y a des gens de partout.
Attendez, pouvez-vous redire,
oui.
Parce que personne n'a eu le temps de noter,
oui.
À 15h, place...
Oui. Alors, attendez, voilà, j'ai l'information écrite, je peux vous la laisser, c'est à 15h, à Tours, place Jean Jaurès, donc samedi, il y a une, et ce sera pas statique, hein, il y aura un défilé dans la rue, avec des banderoles, des familles d'enfants handicapés. Donc, à Tours, à 15h, samedi prochain, samedi 19 janvier. Et il y aura un car qui partira de Paris pour, il n'est pas tout à fait plein, mais enfin, il y a encore quelques places de disponibles, qui partira de Paris à 11h30, 11h45, dernier délai. Le rendez-vous est à 11h30 à la porte d'Orléans, place du 25 août 1944. Il y aura un car qui transportera 55 personnes à Tours et qui naturellement les ramènera le soir. Alors le prix est défiant toute concurrence, je crois que c'est 100 francs ou 150 francs, et même les gens qui ne peuvent pas payer, je crois qu'ils seront accueillis aussi. Voilà pour cette information sur ce projet de loi dont on n'a pas expliqué. Dans le Figaro, il faut dire que ça a tout de même, une page intérieure, ça a tout de même été expliqué il y a quelques jours. Mais globalement, si vous voulez, le message qui a été transmis à l'opinion, c'est que la jurisprudence Perruche a été renversée. Elle n'a pas été renversée.
Il y a une chose qui sera intéressante, je m'excuse d'employer ce mot parce que ça va paraître d'un cynisme abominable, mais imaginez que, parce que la conséquence évidente de cette législation, c'est que quand il va y avoir le moindre risque, le risque le plus infime, le médecin va dire à la parturiente, madame, vous savez, il y a un risque que votre enfant soit anormal, donc il vaut mieux avorter. Bon, et donc cette femme peut avorter. Mais imaginez qu'à ce moment-là, on examine l'enfant et qu'on dise, ah non, erreur, il n'y a pas du tout la trace que j'avais cru voir, l'échographie.
Mais là, il n'y a aucune responsabilité. Il n'y a jamais de procédure qui soit engagée.
Ça peut arriver. Il peut y avoir un arrêt Perruche-Harbert. C'est-à-dire que la femme dira, attendez, vous m'avez obligé à m'avoir, vous m'avez donné un conseil faux, vous m'avez fait avorter, et voilà que mon enfant est parfaitement normal. Moi, je vous attaque, parce que c'est quand même beaucoup plus grave que de ne pas me le dire.
Bien sûr, mais il n'y a jamais eu de procès fait dans ce sens. Peut-être y en aura-t-il.
Ça peut arriver.
Mais le médecin court beaucoup moins de risques s'il tue un enfant normal que s'il omet de révéler qu'il y a un risque d'anomalie chez un enfant qui n'est pas encore né.
Donc, au fond, il y a quand même un point favorable dans cette histoire, si j'ose dire, c'est que ça renvoie les médecins ou ceux qui l'auraient oublié, car j'imagine que beaucoup l'ont gardé en mémoire, ça renvoie les médecins à l'exigence fondamentale de leur sacerdoce.
Absolument, oui. Cet arrêt Perruche a fait un véritable séisme. Certains ont dit, un médecin d'ailleurs qui fait des avortements a dit, c'est un véritable séisme. Ça a été un séisme. L'opinion a réagi d'une façon extraordinaire. Mais maintenant, elle est endormie.
Il faut expliquer ce qui s'est passé. C'est une des questions législatives les plus importantes qui soient posées au cours des dernières années. Parce que si on essaye de réfléchir un peu sur les conséquences à terme, on s'aperçoit que c'est totalement monstrueux. Parce que qu'est-ce qui va déterminer, vous comprenez, la nécessité de procéder à un avortement? Parce que je parlais tout à l'heure de la fente labiale, mais alors il semble que ce soit écarté. On peut plus exactement, ça soit soumis à la pression. Il semble que cet inconvénient ou ce handicap léger échappe à la décision des parents. Et que l'avortement après les 12 semaines ne peut intervenir que sur avis d'experts.
Absolument. Hein.
Là, on va rentrer dans le système. Parce que les experts diront, écoutez, il semblerait, d'après l'examen, que ce soit une petite fente labiale légère, sans beaucoup de conséquences et tout, donc vous pouvez quand même avoir l'enfant. Et puis l'enfant naît, on s'aperçoit qu'il y a eu une mauvaise évaluation et que c'est une malformation grave. À ce moment-là, les parents disent aux experts, mais écoutez, vous vous êtes trompés, vous nous avez trompés, donc on vous poursuit. Mais on entre dans un système de fou furieux.
Pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, M. Beketsch, la Shoah, oui, c'est vrai. Vous savez, cet eugénisme, il remonte très loin, et en tout cas, au début du 20e siècle, il y a eu des lois dans les États des États-Unis, il y en a eu en Suède, et c'est les médecins allemands qui ont... Les savants d'aujourd'hui qui veulent pousser à l'expérimentation sur les embryons en réserve. C'est les savants qui ont poussé à l'eugénisme.
Je rappelle que Margaret Sanger, qui était la fondatrice du planning familial, avait créé une organisation aux États-Unis qui allait voir les pasteurs dans les communautés noires des États-Unis pour convaincre les pasteurs de pousser leurs ouailles à l'avortement systématique, au motif que le nègre était une race inférieure et qu'il se préparait une vie de souffrance dans un système qui n'était pas prêt à le recevoir. Il suffit de lire les travaux de Margaret Sanger.
Les médecins allemands ont pris la suite et les nazis ont suivi les médecins allemands. Et alors, après, évidemment, ce drame terrible de la Shoah, l'affaire a été mise en veilleuse. Et maintenant, comme ça fait un certain nombre d'années qui ont passé, eh bien, ça ressurgit. Mmh. Et cet eugénisme qui est sous-jacent et qui est un peu comme... un petit peu, hein, au fond, tout ce qui nous paraît différent nous fait un petit peu peur. Donc c'est quelque chose qui est très répandu.
C'est quand même incroyable que des députés communistes, socialistes, et même de la pseudo-droite, qui sont des gens qui passent leur temps à nous bassiner avec la résistance, avec la lutte contre le nazisme,
je vous dirais,
avec le devoir de mémoire, avec les célébrations, les commémorations, les 8 mai, les 25 août, les machins, on n'en finit pas.
Je vous dirais que la tâche...
Et ils vont voter ça.
On peut penser ce que c'est de... On peut penser ce qu'on veut de la loi Veil. Je signale, parce que c'est quand même important d'y penser, que c'est demain le 27e anniversaire de la loi du 17 janvier 1975. Dans le message que je publie là, à Mondial Vie Info, je vous donnerai le numéro de téléphone si vous voulez bien, parce que j'explique assez, je crois, les choses sont expliquées clairement. Donc, c'est dans cette loi du 17 janvier 1975 qu'a été introduit cet avortement qu'on appelait thérapeutique, qu'on appelle maintenant médical. Mais ça, comme vous dites, moi j'ai jamais compris comment des socialistes et comment des communistes aient pu voter cette extermination, cette exclusion d'enfants au motif qu'ils risquent d'être handicapés. Pour moi, j'ai jamais pu comprendre cela. Enfin, moi, il y a une contradiction avec la philosophie.
Mais vous avez raison de parler. C'est une loi d'extermination. Parce que quand on parle d'eugénisme, les gens ne comprennent pas ce que c'est. Ça fait partie d'un vocabulaire rare. L'extermination, ils savent.
Ah, mais l'extermination. Mais vous savez qu'à la base de cet article-là, c'est pourquoi le professeur Lejeune s'est dressé tout de suite contre. Il y avait la volonté d'éradiquer la trisomie 21 en supprimant les trisomiques.
Oui, c'est un bon moyen. D'ailleurs, effectivement, c'est vrai que, comme les maladies des vieillards, le meilleur moyen de guérir les maladies des vieillards, c'est l'euthanasie. On tue les vieillards, il n'y a plus de vieillards malades. Donc,
Alors, je crois que le bienfait.
C'est illusoire, évidemment.
Le bienfait, peut-être. S'il y en a un de cet arrêt Pérusse qui a fait scandale, c'est peut-être, à condition qu'on ne s'endorme pas en croyant qu'il est enterré, c'est de réveiller l'opinion et de mettre le doigt sur ce scandale. Mais le scandale, on n'a pas été jusqu'au bout. Parce que le scandale, vraiment, c'est, un, de permettre d'éliminer un être humain et jusqu'à sa naissance, hein, parce qu'il risque, un risque encore, d'être handicapé. Et le second scandale qu'a ajouté la Cour de cassation, c'est d'indemniser parce qu'on ne l'aura pas d'indemniser le préjudice de ne pas l'avoir supprimé. Alors là, c'est vraiment.
Et vous savez,
c'est vraiment. C'est cette loi qui est à l'origine de l'arrêt Pérusse.
Je me dis que, au fond, on s'en rend pas compte. Cette attitude de l'Assemblée nationale et des députés, elle est assez explicable parce que. Ils sont beaucoup plus pressés, beaucoup plus d'accord pour voter des lois génocidaires comme la loi sur l'avortement ou la loi sur l'éradication des handicapés que de voter des lois sur l'euthanasie des vieillards. Parce qu'ils n'ont absolument aucun risque d'être un enfant à naître, jamais dans leur carrière, ni un handicapé. En revanche, ils sont absolument certains, ils ont fortes chances de devenir des vieillards un jour ou l'autre.
Oui, mais malheureusement, vu l'état de la démographie, la chose des retraites, je crois que d'une façon voilée, on va y arriver.
Alors ils feront une loi d'exception, on aura le droit d'euthanasier les vieillards, sauf les anciens députés.
Alors je vous donne, pour terminer, M. Béguet, parce que ce que j'ai dit là, je ne sais pas si je me suis expliqué clairement, mais dans le message qui a été enregistré ce matin, c'est Mondial Vie Info, 01 43 44 63 36. Il est d'ailleurs marqué au dos.
Qu'est-ce que c'est, ce numéro?
C'est Mondial Vie Info. Alors pendant plusieurs années, c'était tous les jours, mais c'était vraiment trop, et actuellement c'est une ou deux fois par semaine. 01 43 44 63 36.
Alors, c'est un téléphone.
Attendez,
01 43 44 63 36. Alors, si vous l'écoutez ce soir ou demain, il va peut-être pas être changé demain, vous avez l'explication de ce dont nous venons de parler et les précisions pour se rendre à Tours et là-bas témoigner contre l'eugénisme et contre l'extermination ou la mise, ou l'exclusion, si on ne veut pas employer des mots trop forts, des handicapés.
Excusez-moi, j'ai une question. Où peut-on avoir les timbres pour la défense de la vie?
Alors, c'est l'Association départementale de la médaille de la famille française des Hauts-de-Seine. 33 rue du Calvaire, 92 210, Saint-Cloud. Il suffit d'écrire Association Médaille de la Famille.
Hein. Ils sont beaux.
Rue du Calvaire, 92 210, Saint-Cloud. Vous envoyez 1,5 euro. pour 5 planches ou 1 euro pour 10 planches, pour simplifier, parce que les centimes d'euro commencent à en avoir ras la casquette.
Donc, c'est des timbres
un,
qui...
1 euro ou 50 un
centimes,
euro.
Ça, c'est des timbres qui sont vendus à prix coûtant. Il n'y a aucun bénéfice.
Voilà, bah, ça, 50 centimes, combien?
Et un euro pour 10 planches, voilà, comme ça, ça...
Voilà, 12 timbres, l'équivalent en France, c'est 2 francs. 12 timbres pour 2 francs. Voilà.
Merci, monsieur.
C'est moi qui vous remercie.
Merci, oui, docteur.
Je puis ajouter quelque chose.
Vous êtes insatiable.
Hier, j'écoutais France Inter, vous avez peut-être écouté le téléphone sonne, et il y avait là deux invités, il y avait Friedman, le professeur Friedman, et un autre dont j'ai oublié le nom, qui était à Créteil. Et je dois dire, j'étais horrifié, mais aussi presque tranquillisé. C'est assez curieux, les deux à la fois. Tranquillisé parce que là, Friedman a dit les choses, finalement, de façon tellement claire qu'on ne peut pas hésiter. Et donc Friedman opère à Clamart et il s'occupe de fécondation in vitro, de diagnostic préimplantatoire, de choses comme ça. Et au fond, je pense qu'il a déjà fait, il a déjà expérimenté sur l'embryon. Quant à l'autre, celui de Créteil, eh bien, lui, il fait des greffes, j'ai l'impression plutôt des greffes nerveuses, et il se sert, donc, il y a un matériel tout disponible, puisqu'il a dit à plusieurs reprises qu'il y avait 220 000 avortements par an en France. Alors, c'était pas dit exactement comme ça, mais de le dire, c'est dommage, après tout, que... Et puis, qu'on ne s'en serve pas. Et puis, Friedman, lui aussi, il ne l'a pas dit exactement, mais on pouvait comprendre que s'il y avait des embryons surnuméraires, après tout, c'est trop bête de le laisser moisir, sinon pas de projet parental. Alors, c'est là où je voulais en venir, c'est qu'il a dit de façon extrêmement claire, et là, je dirais, les gens ne pourront pas dire « je ne savais pas ». Parce que les choses étaient, encore une fois, noires et blancs. Il disait « il y a deux types d'embryons ». Et il y a les embryons qui est un projet parental, ceux-là, il faut donc les respecter, ils sont dits, tout ça. Les autres, on peut les traiter comme des choses.
C'est scientifique, n'est-ce pas?
Alors, j'avoue que un professeur, enfin, qui se dit, enfin, je pense qu'il a les titres, j'en suis certain qu'il a les titres, et tant mieux pour lui. Mais je dirais, à ce moment-là, il aurait dû au moins prendre une précaution de dire qu'il n'y avait rien de scientifique dans son propos, à savoir qu'il pourrait y avoir deux types d'embryons. Parce que là, je ne vois que le subjectivisme. Je ne vois pas du tout le chercheur, je vois simplement plutôt un chercheur avide, il me fait penser alors un peu à Épiméthée, vous savez, le frère de Prométhée. Prométhée était fiancé à le Titan, était fiancé à Pandore, qui avait toutes les vertus, elle avait reçu de tous les dieux, elle avait reçu tout l'espèce de présent, mais aussi une petite mallette où il y avait la fameuse boîte. Et alors Prométhée s'était méfié, il devait épouser, mais il l'a pas épousé. C'est Épiméthée son frère. J'ai apprécié il y a pas tellement longtemps. C'est Épiméthée son frère qui était piqué de curiosité, qui a finalement épousé Pandore pour ouvrir la boîte. Alors il me faisait penser, Monsieur Friedman me faisait penser à Épiméthée qui ouvre la boîte de Pandore, n'est-ce pas? Mais avant lui, je dirais Madame Veil, je veux pas simplement, comme vous le disiez l'autre jour, l'accuser. Je pense que Giscard d'Estaing est encore plus coupable et Monsieur Chirac et toute cette gauche qui a voté massivement pour le crime et tout ça, sous prétexte de liberté. Donc voilà. Et alors, je dirais, ceci n'est pas, ce n'est pas soutenable. On peut pas dire scientifiquement, ni même philosophiquement, parce que c'est du pur subjectivisme.
Oui, c'est même une forme de racisme subjectif, c'est-à-dire on décide souverainement.
Voilà, on décide que les uns
ont le droit de vivre et qui n'a pas.
Voilà. Et alors, c'est le comité d'éthique. Alors moi, je dis ceci, les comités d'éthique, finalement, c'est un ramassis d'athéisme. De maçonnerie, d'ignorance. Moi, je me souviens d'un homme qui appartenait au comité d'éthique. C'était à la maison de la chimie. Et il s'était levé tout à coup comme presque illuminé. Il disait la question qu'avait posée Pilate, mais qu'est-ce que la vérité? Eh bien, la vérité pour le comité d'éthique, c'est le consensus. C'est-à-dire, ouais, on va s'arranger entre soi.
Monsieur de Becquet,
entre francs-maçons.
En vous remerciant, je voudrais rendre hommage.
Merci, docteur.
Le docteur Dor a rendu hommage à Maître Delibes, qui avait fondé Laissez-les vivre avec moi-même et le professeur Lejeune. Je veux aussi rendre hommage à Madame Poulot qui est décédée le lendemain de 8 et qui a fondé SOS Futur Mère, Secours aux Futures Mères avec le professeur Esther Lejeune, et ancienne héroïne de la résistance, et qui a consacré des années et des années de sa vie à sauver les bébés. Je crois qu'il fallait lui rendre cet hommage.
Merci beaucoup, monsieur Grenouille. Merci, docteur. On n'a plus le temps.
Et une auditrice conclut: les gouvernants actuels nous bassinent avec le droit à la différence, mais refusent le droit à la vie aux handicapés qui sont tous différents.
C'est vrai. Nous allons à
Versailles. J'avais deux ou trois petits.
Nous allons à Versailles.
Alors, donnez la date, Versailles, le 26.
Voilà, c'est tellement important. Versailles, le 26. Venez, je vous en supplie, très nombreux. Versailles est le lieu de la Révolution. Alors, c'est devant André Mignot à 14h30, le 26 janvier. Ça durera 2 heures.
Vous le retirez la semaine prochaine.
D'accord, d'accord.
Voilà. Merci. On avait deux ou trois petits messages. Alors, qui restaient. Allez-y. Je suis kabyle, je me sens plus proche d'un Français que d'un Saoudien.
Ben voilà, c'est,
je me Monsieur Serge de Becquet, en tant qu'Alsacien, je milite pour le retour de l'Alsace à l'Allemagne, car je me sens plus de rapport avec les Allemands qu'avec les Algériens.
Ben, dans ce cas-là, vous avez bien raison de militer pour le retour de l'Alsace à l'Allemagne.
Et enfin, votre radio. Sur votre radio, on entend à longueur d'émission que la gauche détient tous les médias. Mais chez vous, le premier des programmes est la musique classique. Puis on traite des problèmes de monarchie, de la poésie. Même dans le cadre des émissions de Serge Lebecquetch, on nous parle de fleurs, de BD. Préoccupations qui sont loin de correspondre aux problèmes réels. Radio Courtoisie me fait penser au Titanic, qui sombre quand l'orchestre continue à jouer en plein milieu de la catastrophe.
Ben, je répondrai d'abord que je trouve qu'il y a beaucoup de noblesse dans le fait de continuer à jouer de la musique quand on est condamné à mort et qu'on le sait et qu'il n'y a aucun moyen de s'en tirer. Deuxièmement, je voudrais que cet auditeur s'interroge sur lui-même. Est-ce que dans sa vie, à partir du moment où il est levé le matin jusqu'au moment où il s'endort le soir, supposé qu'il dorme d'ailleurs, il ne s'occupe que du combat politique? Je pense qu'il s'occupe de ses enfants, il doit lui arriver de regarder un bouquet de fleurs, il écoute même peut-être de la musique. S'il croise une jolie fille dans la rue, je n'exclus pas qu'il se retourne pour regarder si elle a de jolies jambes. Eh bien ça, monsieur, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça, c'est des trahisons du combat politique que vous devez mener seconde par seconde, toute la journée, du matin au soir et du soir au matin. Eh bien moi, je vis comme ça, j'aime les belles choses, les bonnes choses, et je considère que le combat politique, c'est une façon d'organiser la vie de façon à pouvoir profiter des bonnes choses.
Je rappelle que le disque passé à la coupure s'appelle Sur le chemin de Compostelle et qu'il a pour référence Musidisque 1997 AT 29 18 22. Je rappelle la messe de Requiem pour le roi de France Louis XVI, messe traditionnelle célébrée par la Bénérie chorale de l'abbé Michel, le dimanche 20 janvier à 15h, place de la Concorde, sous la statue de Rouen. Messe également pour le repos de l'âme de Louis XVI, samedi 19 janvier à 18h, avec chorale et instruments, à l'église Saint-Eugène, rue Sainte-Cécile, dans le 9e. Dimanche 20 janvier à la Maison de la Chimie de 9h30 à 18h, colloque Rencontre de la pensée rebelle avec Jean-Claude Vallat, Michel Massé-Soli, Éric Werner et Alain de Benoît. Et enfin, la Fédération de Paris du MNR organise une galette des rois dimanche 27 janvier à l'espace Dubaï, Paris 10e. Entrée 10 francs, renseignements 01 56 56 64 34.
Et s'il vous plaît, il me reste 2 minutes pour le dire. N'oubliez pas le Libre Journal de la France Courtoise, qui est un magnifique décadaire imprimé, n'est-ce pas, docteur?
Oh, super. Hein,
que vous aimez.
Ma femme
beaucoup.
Le lit régulièrement.
Voilà. Et qui est en vente au prix de 5 euros.
5 euros?
L'exemplaire. Non, 5 euros. K-E-U-R-O-S, l'exemplaire. Mais vous pouvez vous abonner pour 110 euros, Z-E-U-R-O-S. Vous pouvez vous abonner également. Si vous êtes abonné, vous pouvez vous réabonner pour 100 euros, T-E-U-R-O-S. Et entre nous, si vous envoyez un chèque de 700 francs pour vous abonner, un chèque en francs daté du 31 décembre 2001, nous l'accepterons.
Mon Dieu, les euros. J'ai dit 10 francs au lieu de 10 euros pour l'entrée à la galette.
Voilà, ça commence. Oui, c'est 10 euros l'entrée à la galette.
C'est 10 euros, c'est écrit en toutes lettres.
C'est le prix d'une galette chez mon pâtissier. Hein. Bon, enfin, chacun fait comme il veut.
Bon.
C'est tout.
C'est tout, moi j'ai fini.
Merci.
Eh bien, merci messieurs. Merci. Et je vous dis, non pas à vous, docteur Dor, mais aux auditeurs, à la semaine prochaine.
Un petit poil de minute. Peut-on faire quelque chose contre les affiches pour la contraception qui illustre Paris actuellement? mais il reste un quart de minute, mi-minute.
Je ne sais. Voilà, il faut coller dessus des autocollants que nous donne le docteur Dor. Et alors, pour les commander, vous téléphonez à SOS Tout Petit, 01 47 83 97 42. 01 47 83 97 42. Ils vous donneront des autocollants.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8. Pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous venez d'entendre le libre journal de Serge de Bekech avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 16 janvier de 18 à 21h, en différé jeudi 17 dans la nuit de 2h à 5h et dans la...